Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Coucou, c'est Mimi, et ce n'est pas Fab, car aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je suis toute seule pour animer ce Boys Club. Le Boys Club, pour rappel, si c'est la première fois que tu viens, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité, où un mardi sur deux, avec Fab d'habitude, mais là c'est juste moi, on interviewe un homme et on lui demande c'est quoi son rapport à son genre. Et aujourd'hui, je ne suis pas vraiment seule, puisque je suis en très bonne compagnie, je suis avec Alex Ramirez.
Et c'est le moment où j'interviens.
Oui.
Bonjour.
Bonjour Alex, bienvenue dans The Boys Club.
Merci, c'est très doux.
Est-ce que tu... déjà, c'est déjà doux. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne sauraient pas encore qui
oui.
tu es?
Je m'appelle Alex Ramirez.
Voilà, bravo.
Avec un S oui. à la fin, sinon c'est un surfeur.
Ah, je sens que tellement
sinon,
de gens t'appellent Ramirez.
C'est un surfeur mexicain. Je précise parce que souvent il y en a qui préfèrent. Je suis donc comédien, humoriste, youtubeur. J'aime bien raconter des histoires sous quelle forme qu'elle soit.
Yes, et voilà. On a pu te voir, si vous suivez Mademoiselle sur Facebook notamment, on partage régulièrement tes vidéos
c'est
low cost.
Vrai. Merci.
Où tu refais des films avec des bouts de ficelle et pas d'argent, et c'est très marrant.
Surtout oui, c'est
les
vrai.
Disney, c'est la meilleure
c'est
chose.
Vrai. Les vidéos low cost, ouais.
Et on t'a vu aussi dans une de mes vidéos sur le consentement, on te
oui.
voit à One Match Show.
Souvent, j'ai fait quotidien à la rentrée,
yes.
quelques mois aussi. C'est pas... Je roule ma bosse, comme on dit.
Ouais, ouais. T'as des petits projets.
Je mène ma petite barque. Là, je suis en train d'écrire pour une possible série. Nous verrons.
Ok.
Ouais, on verra.
Petite exclue The Boys Club.
Ouais.
Petit scoop.
Tu sais, c'est... maintenant que je l'ai dit, je suis obligé d'aller écrire après.
Ouais, ça c'est la règle.
Ça me met le game et c'est très bien. Sinon, tu te touches pendant 6 mois en disant « je suis en train d'écrire ».
Ouais, je suis sur une série
je suis
là.
Sur une série là, ouais, ouais. Pilote, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais une soirée alors Lacoste? Bah je sais pas, c'est juste pour le dire que
c'est pour l'inspiration.
C'est pour l'inspi, ouais. T'es invité partout juste pour dire ça, n'importe quoi.
Bien courage pour ta série, j'ai hâte de la
je
voir.
Je prends. Moi aussi j'ai hâte de la voir.
Du coup Alex, on est là pour causer masculinité.
Ouais.
Donc je vais te poser la même question qu'à tous les invités. Ça veut dire quoi pour toi être un homme?
Oh. C'est tellement compliqué que j'en ai fait un spectacle
et
entier.
Oui.
Ouais c'est vrai. Ah oui j'ai oublié de dire, oui, je suis humoriste voilà, humoriste si j'ai dit.
Oui.
J'ai fait un spectacle qui s'appelle Sensiblement Viril. Ça parle plus de moi, mais parce que j'étais en train déjà de chercher moi où j'en étais. Ça veut dire quoi être un homme? Pff, là, là. Être un homme, ça veut dire s'assigner à une définition qui tend à fluctuer de nos jours de plus en plus. Voilà.
C'est quoi les fluctuations que tu observes?
Les fluctuations, ça veut dire que on pourrait tendre à te dire être un homme, c'est être avec tu sais toute une liste d'adjectifs qui maintenant correspondent plus à rien quoi. C'est... Enfin, je te parle des clichés en fait, c'est ça. En fait, je parle vraiment. Pour moi, être un homme, ça veut dire s'assigner au stéréotype de l'homme. Mais je trouve ça un peu désuet. Donc, le stéréotype de est-ce qu'on doit vraiment le rappeler? Je sais plus. Ça va être tout. Forcément, l'homme est courageux, l'homme n'a pas peur, l'homme ne pleure pas. Ça me fatigue un peu. C'est un peu
est-ce
fou.
Est-ce qu'en 2019, on peut arrêter peut-être?
Voilà. Donc, c'est pour ça. Du coup, je suis être un homme, dire ouais, ça c'est un homme ou. Je sais plus. Je sais pas ce que ça veut dire. Et c'est tant mieux, je crois. Voilà. C'est-à-dire que je crois que je m'en sors un peu comme ça à ta première question.
Mais c'est très bien. J'aime bien cette. Ouais. C'est le seul regret du fait que ce podcast n'ait pas de vidéo. C'est la tête des mecs qui n'ont jamais écouté quand ils ont la première question et qui font ah ouais.
On va. Allez, on y va.
On va dire.
C'est génial. Non, c'est qu'en plus, ou alors il y a le côté scientifique. Mais alors, est-ce qu'on est vraiment là pour parler scientifique? Est-ce qu'un homme,
personne
dotée de sexe masculin? Et encore, je crois que même pas.
Ben non,
en fait,
parce que finalement, il y a des hommes trans.
Voilà.
Mais il y en a qui parlent. Il y en a pas mal qui commencent en disant, j'imagine que c'est avoir un pénis, mais à part ça, je sais pas trop.
Ouais.
Donc c'est aussi un truc qui vient souvent en tête.
Oui.
Mais effectivement,
non.
Ça correspond pas à 100% des hommes, puisqu'il y a des hommes qui n'ont pas
ouais,
de pénis.
Exactement.
Donc, c'est pas non plus exhaustif.
En fait, c'est une question, tu sais déjà qu'on pourra pas y répondre.
Oui.
J'adore. Très bien.
J'aime bien. Comme ça, t'es déstabilisé là. Tu sais pas ce qui va se passer.
Ouais, pour voir sur quelle base on part. Ouais.
Yes. Une bonne façon de savoir comment les gens se construisent, c'est de savoir comment ils étaient avant. Donc, je voudrais savoir, t'étais quel genre de petit garçon?
C'est marrant, cette phrase. Genre petit garçon. Ah. C'est marrant, quel genre de petit garçon. J'étais très imaginatif, très dans mon monde, très dans mes histoires déjà. Et très, j'écrivais des poèmes, je faisais des dessins, j'inventais des chansons. Très dans l'artistique, on va dire. Ouais, ouais, ouais.
Et est-ce qu'au niveau de ta famille, c'était un truc qui était accepté ou pas?
Ouais. Mais alors c'est marrant parce que autant dans ma famille c'était accepté, autant je me l'acceptais pas aux yeux de la société.
Comment ça?
C'est-à-dire que si on va aller dans les choses, par exemple écrire des poèmes qui peuvent être des choses on va dire plus sensibles, je dirais, c'était quasi une fierté de ma mère parce qu'il y avait le grand frère, elle adorait nous mettre dans des cases, donc t'avais le grand il fait du sport, il a des cicatrices parce qu'il tombe parce qu'il est un peu con je pense, et le deuxième c'est plus sensible, écrit des poèmes, mais limite à un moment j'allais me dire bon c'est bon, j'ai grandi, j'ai 14 ans, j'écris plus de poèmes, arrête de nous mettre dans le côté lui il est sensible, il fera jamais de sport, mais moi j'avais des fois j'avais envie de faire du sport presque, tu vois, juste pour montrer.
Et moi quand aussi, j'étais je vais faire en du foot.
Exactement. Non, jamais. pas à ce point. Mais c'était très si on va dans les ouais, si on va par exemple je voulais une Barbie quand j'allais je sais pas, on était dans un magasin, je voulais une Barbie, je l'avais quoi. Enfin, c'était okay. Pas parce que c'était c'était pas parce que c'était un c'est on va dire le Barbie c'est un jouet genré, on va dire. Pour les filles, et en fait non, enfin ça passait crème dans ma famille. Mais moi, par exemple, quand j'allais, et c'est, cette anecdote vraiment souvent je la ressors parce qu'elle m'a marqué, quand j'allais à la ludothèque où tu pouvais louer des jouets, eh bien il y avait les Polly Pocket, et je me disais bon ok, tu l'as pris cette semaine, pendant 3 semaines tu le prends pas, parce que sinon ça va parler, ça va être chelou. J'avais 6 ans quoi.
T'avais déjà ce truc en tête de il y a quelque chose qui fait que je devrais pas trop vouloir jouer au Polly Pocket quoi.
Ouais, alors que ma mère était la première, tu veux, prends-le. Et ouais, je me rappelle vraiment de ce truc, de l'orgnant sur cette maison de ouf, qui est la maison Polly Pocket, hein. Je vous rappelle quand même qu'il y avait des personnages, une sacrée ambiance, des décors, comme si t'y étais. J'avais pas prendre un, voilà. Et en me disant, bon, prends un jeu, qui fera moins loucher les gens, alors qu'au sein de ma famille, ça passait crème, quoi. Donc c'était, ouais, déjà ce truc de, bon, on va, mais j'ai toujours un peu fait ça, je pense. J'ai toujours un peu fait semblant pour pas me faire... fait semblant ou pour... dans certaines situations, tu vas forcer le côté masculin. Comme ça, tu sais que tu vas moins te faire embêter sur des trucs. Et j'ai joué un peu avec les codes. J'ai toujours un peu fait comme ça.
Mais est-ce que tu penses que peut-être c'est un truc qui devenait de l'école? Parce que autant je comprends que plus tard dans la vie, on s'adapte autant à 6 ans quand on veut un jouet et qu'on te dit « prends le jouet », généralement... plupart des enfants vont dire « Ok, toutes les semaines, les Polly Pocket, mon gars. Vraiment, plus personne ne jouera aux Polly Pocket, à part moi. »
Ouais, c'est vrai.
Mais t'avais déjà... J'essaye de comprendre d'où ça pouvait venir. Est-ce que peut-être à l'école, je sais pas, il y avait la socialisation avec les autres enfants qui faisait que...
Mais je pense que c'est ça. Et on se rend pas compte. Mais t'as des fois des enfants même... Moi je fais par exemple la vidéo Holocaust de la Reine des Neiges. Des amis montent ça à leurs enfants. Ils ont je sais pas, après les âges... Faut qu'ils soient en âge de parler, donc on va dire 4-5 ans.
Je vais pas t'aider là-dessus, je connais rien aux enfants, je suis là.
Et ils vont dire, ah mais c'est bizarre, c'est un garçon qui a une robe. Ils ont 4-5 ans, je pense pas. Et parce que ça y est, la société, le mauvais côté de la société a fait son taf, quoi. Donc, a dit, non, les robes c'est pour les filles. Mais parce que c'est comme ça qu'on se construit, et après faut déconstruire.
Et est-ce que du coup, à l'école, dans la cour de récré, t'étais plutôt avec les filles, avec les garçons, plutôt dans ton coin?
J'étais plutôt avec les filles. J'étais plutôt avec les filles et c'était cool, j'avais une meilleure amie et on était tous les deux dans notre coin.
Ok,
voilà, c'était vraiment
un groupe de filles et les deux et après, chelous qui sont dans leur coin.
On était les deux freaks avec plaisir. Ouais. Puis nous on jouait déjà Harry Potter parce que sauf que personne connaissait, on lisait déjà les Harry Potter.
C'était avant que ce soit cool.
Exactement. Donc on était, mais c'est qui Rogue? On faisait laisse tomber, vas-y, non, on va jouer.
Tu peux pas comprendre.
Tu peux pas comprendre.
C'est qui ton préf dans Harry Potter?
Mon préf?
Ou ta préf?
Ou ma préf, ouais. Je crois que c'est marrant, je me suis jamais... Moi, ce que j'aimais dans Harry Potter, c'était les monstres, donc c'est...
Bah ton monstre préf, ça passe aussi, hein.
Je crois qu'Aragog, j'aime bien, parce que ils l'ont fait parler. On s'attendait pas du tout, et que d'un coup...
L'araignée géante parle.
L'araignée géante parle, ouais. Après, de toute façon, j'adore la Chambre des Secrets.
Ouais. Ok, ouais, donc vraiment, ouais. Les animaux fantastiques.
Il y en a beaucoup, il y en a pas mal dans la Chambre des Secrets. Et le basilic, et les serpents géants, et les trucs, et les araignées. Et le 4, parce que énigme en tout genre. C'est un escape game, le 4. Hein, c'est,
oui.
Tu mets l'œuf dans l'eau, tu mets un truc.
Après, c'est un mystère, c'est une énigme,
voilà,
c'est un poème, machin.
C'est Fort Boyard mélangé Il y a pas trop de courtes, pas plus mal.
Fort Boyard avec des dragons, quand même.
Voilà. Mais c'est bien, ça fait sauter les cours, on s'en fout, métamorphose, c'est pas le moment. Donc, ouais, ça, c'est ce que je me rappelle. Après, non, personnage, je suis très peu fan comme ça d'un personnage en disant ah, lui, je l'adore, ou le, elle, je l'adore. Non, c'est, pas...
c'est plus l'univers qui va te parler.
Ouais, exactement.
Okay. Est-ce que t'as une maison quand même? Est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent savoir ta maison?
Ma maison, je pense que. Je pense que je serais à Poufsouffle. Tout en me disant, ça reste les... En fait, je sais pas si Poufsouffle, c'est les cool, tu sais, genre... tu sais que ceux qui vont faire des jeux... Donjons et Dragons, ça serait quand même con de jouer à Donjons et Dragons dans Harry Potter, mais bon, ils peuvent toujours, voilà.
Bah oui.
Tu vois, si c'est les cool un peu comme ça, ou si c'est juste les geeks qui sentent très fort, tu vois.
Non, je pense qu'ils sont cool.
Tu vois, voilà, c'est ça.
Je pense, et ne le faites pas chez vous car c'est illégal, je pense qu'à Poufsouffle, ça fume des spliffs. Tu vois,
ah ouais.
Et ça mange bien.
Les babes alors, les babos de Poufsouffle.
Un peu, ouais. Dans ma tête, ils ont un côté, tu vois, genre, la vie, c'est les plaisirs simples.
Ouais, bah alors je pense que je serais un peu Poufsouffle. Ou alors, je serais, comme quand j'étais en cours, je serais dans une maison, je dirais, ah, je me sens pas à ma place. Tu vois ce que je veux dire? École d'art, ouais, école d'art, c'est Poufsouffle, un peu.
Ouais, de ouf.
Bon, bah, Poufsouffle alors.
Ok.
Blaireau.
Du coup, tu te sentais pas à ta place en cours?
Non, mais avant d'aller dans un lycée qui faisait option art. J'ai vu des gens vraiment cool qui se déguisaient, même dans le lycée, qui déliraient, machin. J'étais dans un lycée un peu simple. Dès que t'avais des chaussettes de couleur, tu te faisais un peu... T'avais des remarques, quoi. Donc,
ah ouais.
Pareil, du coup, t'en prends pas parce que tu la joues fine, mais t'es toujours un peu dans le... Oula. Donc après, j'ai découvert un lycée avec des gens un peu fantasques
qui
m'allaient beaucoup mieux.
Dépareillés. Dang.
Tu vois, j'étais genre au lycée, je vois un homme avec des barrettes. J'étais, mais c'est génial. J'en étais là, quoi.
En même temps, je me souviens de Julien Doré à l'époque. La barrette a tellement fait parler, quoi. Hein,
tu vois?
Juste une barrette.
Exactement. Mais il faut. Donc, c'est des petits combats. Merci, Julien Doré.
Merci pour ce que t'as fait pour la cause des hommes. Non, en vrai, je pense, écoute, on verra.
Et toi, ta maison?
Moi, je suis serpentard, de ouf.
Ah ouais?
Ouais. Parce que les serpentards, c'est ce genre de truc où ils ont la flemme de faire des trucs. Du coup, ils passent du temps à développer des moyens de pas faire les trucs ou de les faire plus vite parce qu'ils ont la peine de les faire. Et du coup, je pense que je suis serpentard parce que vraiment, j'expédie beaucoup de tâches très vite et relativement correctement. Ça va, tu vois, genre, je suis pas là à branler l'intégralité de ma vie. Mais je vais quand même essayer de trouver des astuces pour faire que ce que j'ai envie de faire et vraiment pas faire ce que j'ai pas envie de faire.
Si tu peux dire à un serpent, vas-y.
Ouais, si tu peux. Imagine, t'as un serpent, tu peux lui dire passe l'aspirateur. Bah, t'as gagné.
Ouais, c'est du boulot de sagouin, hein, par contre. Hein.
En même temps, est-ce que je passe très bien l'aspirateur?
Moi, c'est la maison de Serpentard dans le 2 où c'est sous l'eau, les fenêtres. Je me suis dit, oula, trop peu de lumière pour moi.
Ah, c'est humide. Hein.
Ouais.
Ah ouais,
c'est
non,
humide,
c'est...
tu vois, c'est ça. Bah, et les reptiles,
c'est
j'ai
pas
quand
moi
même...
qui ai fait l'architecture.
Mais je pense que je serais avec. Si je draguais un mec, je serais avec un Serpentard, je pense. Parce que
ah ouais, t'aimes bien les bad boys.
Mais j'aurais un côté attirance-répulsion. Parce que j'ai ça avec les serpents. Et je pense que. Non, ça serait passion, mais ça durerait pas longtemps.
Okay.
Je finirais avec un cerf d'aigle bien dans ses bottes, des petites lunettes, qui me dirait oui, tu sais que l'astronomie c'est intéressant. Je dirais bah, allez, vas-y, c'est pas grave.
Parle-moi des étoiles.
Ouais, parle-moi des étoiles, on en est là.
Du coup, est-ce que t'as eu une vie amoureuse? On va faire ta vie.
Wow.
Résumé par Harry Potter, ok. Ça va être des points d'ancrage et du coup, on
d'accord,
va développer
ça
ta vie
très très bien. C'est parfait.
Du coup, est-ce que t'as eu une vie amoureuse passionnelle?
J'ai eu une vie amoureuse passionnelle ou est-ce que j'ai une vie amoureuse?
Les deux, ça dépend si c'est fini ou pas.
Ouais, voilà.
Si tu me dis je vais finir avec un cerf d'aigle avec des lunettes, je me dis bon, il y a peut-être eu une période bad boys on est avec un prof d'histoire, tu vois, je sais pas.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, je dirais que si qu'on compare ça à... j'ai eu des envies de serpentard, mais ça c'est... Je suis en plein dans cerf d'aigle, là.
Ok.
Non, j'ai une vie amoureuse et... Ouais, j'ai une vie amoureuse, mais qui s'est manifestée, mais hyper tard. Je pense que j'étais un enfant très longtemps dans ma tête, en fait.
Ah ouais, c'était donc, quand c'était, tes premiers émois?
Les premiers émois, ça devait être à 19. Après, il y a eu des périodes de traversée du désert. Après, ça reprend à 21. Il y a des trucs, souvent, tu sais, je sais pas, vers, je sais pas, 16, il se passe des trucs et tout.
Ouais, moi, même j'étais... si c'est unilatéral, quoi. C'est
oui,
juste
voilà.
T'es amoureux et.
Ouais, ouais, exactement.
Tu
même
pas,
sexuellement, mais... machin, c'est, j'avais. J'étais, pour moi, je me considère comme. J'étais asexué dans le sens où j'étais, je pense, encore dans les Playmobil, les Pokémon et Harry Potter, pour le coup. Polly Pocket, moins. Moi, moins trop petit, après, j'ai... Mais ouais, enfin, il y avait un peu un côté où c'est, ça me. Et puis, toujours ce côté, sachant que je suis gay. Peut-être ce côté où tu te dis, bon, alors ça va être vachement plus compliqué pour déjà en parler, exprimer. Je pense que déjà, quand t'es ado, t'as un désir qui naît, tu sais pas trop comment ça se manifeste. Si en plus t'as un désir qui naît, mais qui est différent de la majorité, tu sais encore moins comment en parler, quand en parler, avec qui. Et quand tu vas, du coup, tu vas par petits pas, par petits pas, par petits pas. Je pense que ça prend plus de temps.
Tu n'avais pas de potes homo ou dans ton lycée où il n'y avait pas des gens qui avaient fait leur coming out et où tu te disais, ok, peut-être.
Ouais, non.
Je pourrais aller lui proposer un café juste pour comprendre. C'est quoi ? J'ai pas eu le manuel, s'il vous plaît.
Non, non, non. Et en plus, les seules représentations d'homo dont je me rappelle, c'était pas mes potes, ils étaient dans une autre classe et tout. Et puis en plus, j'avais aucun atome crochu avec ces personnes-là. Pas parce qu'ils étaient homo, mais parce que je me sentais pas du tout je me disais pas, tiens, vas-y, on peut être potes. Ouais, exactement. Donc en fait. Et la première personne à qui j'en ai parlé, c'était une amie au lycée, et elle a fait la réaction que tu veux surtout pas avoir. Donc du coup, tu fais ok, je peux aller m'enterrer là maintenant, machin. Et après, j'en ai parlé à des gens qui faisaient oui, d'accord. Enfin, du coup, c'était très ok, d'accord.
Mais et qu'est-ce qu'il a fait j'allais dire paniquer, mais surréagir. Elle s'y attendait pas.
Ouais, je sais pas. Elle était dans Closer, je crois. C'était un scoop pour elle. C'était non, mais non. C'était, il se passait des trucs au lycée, quoi. C'était un peu Madison College, comme j'appelle. Pour moi, c'est dès qu'il y a des histoires, tu sais, des amourettes, des embrouilles. Ouais. Même quand t'es plus au collège, moi, je dis c'est un peu Madison College, quoi. C'est un peu machin. Il avait dit que machin, il avait donné ouais.
Et tu sais qu'elle est apparemment lui.
Voilà, exactement. Okay. Du coup, non, elle était digne de confiance, mais voilà, c'était. C'est un podcast où on coupe des trucs quand c'est pas
très
rythmé.
Peu.
Ah ouais.
Non, très peu. C'est pas un podcast du rythme, c'est un podcast.
Ah ouais,
d'accord.
Ouais, moi, j'ai pas l'habitude de ça. Ouais.
Je vais couper peut-être s'il y a un long silence ou si t'as besoin de
comme celui-ci,
tu vois. Ce genre
ça,
de truc
long.
Je coupe.
Ouais, okay.
Ça c'est trop long, tu vois. Et en même temps, celui-là je vais le garder du coup.
Ah,
les gens ils vont être là. Marche mon casque. Ah ok, allez, coupe. Voilà. Désolé les gens, j'ai été con. Mais quoi, à quel moment toi tu penses que t'as su? Que t'aimais les garçons avant de le dire à des gens qui ont plus ou moins réagi fortement.
Un moment où je me disais bon les filles c'est pas ça. Un moment où j'ai embrassé une fille je devais avoir 18 ans avec la langue et tout, sinon je faisais beaucoup de smack aux filles quand j'étais enfant. C'était très drôle pour moi. Je sais pas, j'aimais bien. Mais vraiment embrasser une fille avec la langue, et j'étais. Oh, bah non, bah si c'est ça, wow, oula. Non, non, ça va pas du tout, ouais, ça va pas. Et. J'avais pas de désir, c'était pas. Je voyais un garçon, je me disais, ou tu vois, ou quand t'es au lycée, je sais pas, dans des vestiaires, j'en ai parlé à des potes gays qui étaient, ah, t'as un œil qui traîne, ou tout ça. J'étais pas du tout là-dedans. En fait, pour moi, c'était vraiment. C'est arrivé très tard, en fait. Et je pense que c'est en le disant que je me suis dit, oh, ok, ça doit être ça. Partons là-dessus. Allez, on va dire, je suis gay, partons là-dessus.
Dans le doute,
partons là-dessus. Tu commences par dire, je suis bi, ça c'est très drôle.
T'as eu cette période-là.
Adrien Arnoux qui dit que son frère a dit, je suis bi, et il a fait, c'est bien, t'as fait la moitié. Et j'adore cette vanne. D'ailleurs, on lui restitue. Adrien Arnoux, humoriste. Ouais, du coup, tu commences comme ça et tu commences par le dire à tes amis et puis tu vois, mais des fois, tu le dis avant même d'avoir fait quelque chose finalement avec un garçon. C'était vraiment bon. On est là-dessus pour déjà, je pense que l'étiquette là-dessus m'a presque aidé en me disant, ok, maintenant je sais un peu où j'en suis. On va dire, c'est ça, on part là-dessus et on voit. Est-ce que ça correspond? Ok. Et, tout en sachant que voilà, tu grandis, le désir grandit et peu à peu et j'ai l'impression quand même la sexualité grandit et s'assume. Plus aussi t'en parles aussi et plus tu fais des choses qui correspondent à ça en fait.
Oui, un peu dans les faits. Au début, t'es dans l'idée, mais t'as pas testé quoi.
Ouais, voilà, c'était un peu ça.
Toi, quand t'embrasses une fille, tu te dis probablement pas.
Ouais.
Sinon, ça va être nul longtemps.
Ouais, c'est ça.
Donc, non.
Sinon, ça avait beaucoup de salive quand même. J'étais sur un truc. Ça avait quand même beaucoup de salive. C'est pas un truc auquel tu penses normalement quand t'embrasses. Ou alors quelqu'un qui bave abondamment.
Ou un premier baiser vraiment foireux.
Ou un crapaud, mais dans ce cas-là, c'est autre chose.
Faut arrêter les Disney du coup.
Voilà.
Et quand est-ce que tu l'as dit à ta famille?
Alors, je l'ai dit à ma mère quand je devais avoir... En fait, je l'ai dit, je me suis dit, j'attends d'avoir un mec pour dire je suis avec quelqu'un et il s'appelle nom de garçon. Comme ça, voilà. Comme ça, voilà, mais comme ça, c'est fait. Et puis, c'est plus logique puisque j'avais pas envie de dire dans l'absolu, je suis gay, mais j'ai personne. Enfin, pour le coup, ça concernait... Enfin, pour moi, ça les regardait pas. Je vivais à Lyon, je devais avoir 20 ans. Et 21, ouais, un truc comme ça, 20 ans. Et j'ai dit à ma mère et elle m'a dit... Eh ben, moi qui voulais une famille normale. Et là, j'ai fait... Oh, j'ai eu l'impression de prendre un couteau dans le cœur. En plus, c'était avant de partir. Elle m'avait raccompagné à Lyon. Bon, je vis à une... Enfin, mes parents vivent à une quarantaine de minutes de Lyon. Et du coup, j'ai fait d'accord. Et on n'en a pas reparlé pendant 3 ans.
Ah,
après, il s'avère que j'étais plus avec ce gars. Donc, j'avais plus d'occasion de dire je suis avec un tel, machin. J'enchaînais 2-3 histoires, mais jamais de relation longue. Donc, c'était un peu compliqué. Puis j'aimais pas, parce que ça faisait passer aussi pour le côté, tu sais, le côté, le cliché que les parents peuvent s'imaginer, en tout cas que les gens, pas forcément les parents, mais ignorants, si t'es gay, t'es forcément volage, tu collectionnes les mecs, tout ça, alors qu'en plus, j'en avais pas plus que ça. J'avais pas envie de dire, bon, bah aujourd'hui c'est un tel, enfin je sais pas, j'avais pas envie de le tenir au courant de ma vie sexuelle, en plus je les voyais assez peu. Et après, j'en ai reparlé quand j'ai eu un autre copain. Et là, on en a parlé, et je lui ai même dit d'ailleurs, c'était chaud ce que tu m'as dit il y a 3 ans quand même. Je voulais lui dire, elle a ri, elle était un peu gênée, bien sûr, et on a parlé. Et après, je pense que quelques mois après, j'en ai parlé à mon père. Et après, quelques mois après, toute la famille.
Ok, donc en fait, il y a eu 3 ans où ta mère était la seule personne au courant, c'est ça?
Ouais.
Et elle l'a pas.
Bah, sachant qu'avec mon père, ils se disent tout, j'étais un peu. Bah, et je pense qu'en fait, c'était un peu. On va voir si c'est une passe, une passade. Tu vois, c'était un peu. Pour moi, lui, on avait parlé forcément. Et en même temps, c'était très. Tu sais, c'est la période, voilà, tu commences. T'es à la fac, et en même temps, tu te vois moins. C'est un peu dont tel, quoi. Tu lui demandes juste, tu vas bien, tu vois. Fallait prendre nos distances, je pense. Et je sais pas, peut-être qu'elle lui en a parlé. À mon avis, non. Peut-être qu'elle a tâté le terrain, tu sais, ce qu'on appelle. T'en parles un peu. Oh, regarde à la télé. Non,
oui,
non,
voilà.
Je sais pas.
Tu mets un film, oui.
Tu mets un
personnage.
Tu mets un film porno gay. Tu fais alors. Est-ce que...
Le mardi soir, comme ça, avec la ratatouille.
Voilà,
bon,
juste après la météo. Enfin, tu fais ta vie. Après, il faudra lui demander. Eh bien, elle est là. On la reçoit. Isabelle.
Bonjour, Isabelle. Tu peux faire du roleplay. Désolée, ta mère n'est pas là. Elle n'était pas disponible.
C'est pas grave. Tellement occupée.
Et ton père, il a réagi comment?
Mon père, il m'a dit...
T'as pas parlé de ton père pour l'instant, dans tout cet échange
En fait, ma mère, elle est très importante. Ma mère, elle, même dans mon spectacle, ma mère, c'est elle qu'on appelle porte la culotte, qui tient pour moi le couple, qui tient la famille, c'est très matriarcal. Donc il y a un côté où mon père, j'adore, parce qu'il est un peu... C'est un peu un personnage... il me fait un peu penser à Hagrid, tu sais, c'est un petit personnage... Plus petit, mais c'est un petit personnage rond et très fantaisiste... qui est dans ses histoires, je pense que ça vient de ça, le côté que je fasse du théâtre, tout ça, mais lui, c'est très interne. Et du coup, ma mère, il y a un peu la dose de réalité qui lui rappelle des fois que qu'il y a des horaires, qu'il faut faire des choses, sinon il serait dans son jardin toute sa vie, mon père, je pense. Et donc, du coup, j'avais pas hyper peur, je pense. Venant de mon père, souvent on dit, les pères vont être moins tolérants, enfin, dans les clichés. Moi, mon père, je lui ai juste dit, je pars en vacances avec notre garçon, et il m'a dit, ah, ok, c'est cool, je lui ai fait, mais c'est pas mon pote. Enfin, je fais, tu sais qui c'est pas mon pote. Je fais, non, c'est un peu plus, en fait. Il a fait, ok. Ouais. Et là, il a dit, et c'est une phrase souvent que je dis quand on me demande comment s'est passé mon coming out. Je reçois des messages Instagram, tout ça, sur les réseaux sociaux. Et il m'a dit, oh, il n'y a pas de lézard. Et là, je lui ai dit, écoute, en fait, je te demande pas ta bénédiction ou ta malédiction. Je te tiens au courant de ce qui se passe dans ma vie parce que tu es une personne qui est importante pour moi. Et là, pour le coup, je me suis dit, hé, c'est quand même vachement classe de dire ça. Dans le sens où, en fait, c'est ça, en fait. C'est souvent, on dit, est-ce que les gens vont le prendre mal ou prendre bien? En fait, ils n'ont pas à le prendre. Enfin, ils ont juste à le.
C'est un fait.
Ou à le recevoir, comme on dit, mais enfin, oui. Oui, c'est un fait, voilà, exactement. C'est comme si tu disais, j'ai deux bras. Bah voilà.
Bravo.
En fait, voilà.
Il n'y a pas de lézard, tu sais.
Il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de lézard, non, mais. Tu vois, la nature, toujours. Je te
c'est
tiens au courant.
C'est vraiment une phrase de daron de ouf,
il n'y a pas de lézard. C'était vraiment, je te tiens au courant. Ouais, c'est ça. Et souvent, je pense que c'est la démarche qu'il faut faire. Et c'est ce que je conseille aux gens qui n'ont pas encore fait leur coming out, s'ils veulent le faire. C'est de, je vous tiens au courant et je vous attends pas. Après, bien sûr, ça faut être déjà très sûr de soi et je peux comprendre que c'est compliqué. Je vous tiens au courant. C'est pas bien ou pas bien. C'est comme ça. Ça changera pas. Que vous disiez, je suis pas d'accord. Ah bah très bien. Bon bah j'ai.
Ah bah. Bon, j'arrête alors.
Pardon, je voulais dire, j'adore les femmes. je me suis trompé de mot.
Oui, c'est exactement ce que je ressens pour les femmes et leur salive.
Et leur litre de salive.
T'as jamais rien retenté avec une femme du coup?
Non.
Comme tu as dit que tu avais une période où tu disais peut-être t'es bisexuel.
Non, c'était dans les faits, c'était vraiment pour pas me fermer de porte, c'était vraiment pour... Il y avait un côté aussi très dans la séduction, je crois que j'aimais bien, comme j'aimais bien plaire, savoir que je pouvais plaire à une fille, ça me plaisait aussi. Vraiment égocentrisme exacerbé, mais sans aller plus loin. Donc je pense que j'ai dû faire galérer des fois certaines filles en étant juste... un peu distant, mais en disant
t'as
pas non.
Brisé des cœurs.
En disant pas oui, j'espère pas, mais en étant un peu... flou sur le sujet.
Ah, ça se trouve, il va y avoir des auditrices, elles avaient grave un crush sur toi en seconde et tout, et elles seront là, putain, il était gay depuis le début.
Je pense pas parce que j'étais assez dégueulasse en seconde quand même.
T'étais comment?
Homme ou femme. En seconde, j'avais les cheveux frisés, mais je mettais du gel quand même dedans, donc on était vite sur de la femme cuche hein, quand même. Pas mal de boutons, donc crumble au niveau du visage. Et alors, j'avais vu cette mode à Lyon, mais alors, j'ai vu
à
une personne dans la grande ville. Je mettais un débardeur sur mon t-shirt. Alors, imagine un débardeur
ça
marron.
Ça n'a jamais été une mode.
Jamais.
Frère.
Débardeur marron sur t-shirt orange. Voilà. Et alors là, j'avais mon caleçon qui dépassait assorti à mes chaussures, évidemment. Mm. Soit jaune, soit rouge, donc beaucoup de couleurs. Non, j'étais assez... homme ou femme, je pense que j'attirais personne.
Peut-être des... Bah, la personne qui avait son départ sur son t-shirt, peut-être, aurait eu un coup de cœur immédiat.
De qui ? La personne ?
La fameuse personne qui t'a donné l'idée de mettre un débardeur sur son t-shirt.
Peut-être,
vous
peut-être.
Vous étiez deux.
Ouais.
Et vous auriez dû vous trouver. Peut-être.
J'avais vu un vendeur à Lyon, et tu sais, t'arrives à la grande ville, tout le monde est magnifique, t'as l'impression, tu sais.
Oui.
Puis t'as l'impression que le vendeur, enfin, t'as l'impression. Tu sais, vendeur, ça fait partie des métiers où, comme barman, qui ont une espèce de prestige, mais très éphémère. Il y a un côté, pour moi, vendeur, t'es là, tac, tac, tu gères les fringues et tout. Et puis en fait, bah oui, sauf que le lendemain, tu gères les fringues. Il y a un côté, voilà, il y a un côté peut-être rébarbatif. J'ai rien contre les gens qui nous écoutent et qui sont vendeurs, hein, mais finalement, pour moi, il y a un côté, ouais, ça, je trouve ça hyper classe. Sauf que quand t'es vendeur, t'es pas créateur de mode, mais j'avais pas encore compris ça.
Ah, c'est pas lui qui...
Ah, donc okay. Le vendeur à H&M, le chef du rayon H&M, c'est pas lui qui lance les tendances. Ou alors il les lance très très loin.
Bah, il les lance aux gens qui le voient une fois et qui se disent, ouais, je vais m'habiller
ouais,
comme toi.
Je vais m'habiller comme lui. Mais pas avec les mêmes couleurs, parce que lui, je pense que c'était plus classe parce qu'il avait le corps pour et, et les couleurs.
Est-ce que t'avais des complexes quand t'étais... Enfin, j'allais dire quand t'étais ado, mais en vrai, à n'importe quel moment, ça marche aussi, malheureusement.
Alors non. Non, je crois que j'avais un journal intime, un semblant de journal intime, puisque je finis jamais quand j'écris un journal intime, j'écris trois lignes, et puis, à un moment, j'avais dû écrire, envie de maigrir un peu et de me muscler, mais pas du tout. Non, c'est vraiment quand je suis arrivé à Paris, donc c'était il y a 4 ans, que le game s'est installé avec le côté, mais pourquoi j'ai envie de m'inscrire dans une salle de sport, c'est ce que je raconte dans le spectacle, pourquoi, oula, et là, je suis en train de perdre mes cheveux aussi. Un peu. Si, si. Donc du coup, là, je suis en train de me dire, sachant que tous les hommes de ma famille sont chauves, je suis en train de me dire, ah, ça te pend au nez. Et je suis pas hyper OK avec l'idée. Peut-être que je l'accepterai dans quelques mois.
Voilà. Bah, c'est le grand discours de Fab qui, du coup, n'est pas là, mais je le remplace parce que lui, il a eu sa calvitie tôt.
Bah, voilà.
Je pense qu'il a commencé à perdre ses cheveux à 18 ans et son père était chauve. Et du coup, son père en a beaucoup souffert et beaucoup complexé. Et Fab, il s'est dit, bon, bah, le plus simple, c'est de l'accepter tout de suite, quoi, de pas galérer pendant des années à. Déjà
à tirer la mèche, c'est de derrière,
cache misère. Et puis à me sentir pas bien dans ma peau, et du coup il a assez tôt tout rasé, quoi. Mais c'est vrai que tu vois des photos de Fab à 20 ans, il a beaucoup moins de cheveux que toi.
D'accord.
Je t'embrasse, Fabrice. Ça te va très bien la calvitie.
Bah oui.
Mais du coup c'est, moi je le vois avec, du coup on papote, je te raconte un peu ma vie.
Bah oui.
Je le vois avec mon copain qui est persuadé d'être en train de perdre ses cheveux aussi. Et bon, moi je le vois pas trop, mais je le crois. Et en fait, je vois à quel point ça l'inquiète et je me dis, mais ouais, mais c'est horrible, quoi, parce que pour le coup, ça, c'est un truc où t'as aucune prise dessus.
Non.
Le poids, tu peux en. C'est comme la taille, quoi.
Oui.
Tu peux pas être plus grand,
voilà,
plus petit, tu vois, c'est âge.
Et puis c'est l'âge, c'est synonyme de plein de choses. C'est comme les cheveux blancs, le temps passe, tout ça. Moi, je me dis, si un jour j'ai envie de faire un peu de cinéma, ça serait quand même con que je devienne chauve pile à ce moment-là. Enfin, tu vois, j'ai eu des années.
Bruce Willis.
Bah oui. Ça tombe bien. Je veux la même carrière que lui. Piège de cristal.
Et petit
en
Marcel,
France. Ouais.
Tu vois,
en France, ça serait piège de plâtre.
Piège de crépi.
Piège de crépi, low cost, voilà. Ça serait une pension low cost.
Quand tu veux.
Il y a des terroristes dans le faux plafond. Ça, c'est pour moi, vous inquiétez pas.
C'est ta voix, Bruce Willis.
Oui, c'est ma voix grave.
Est-ce que tu penses que ce rapport au corps qui a changé quand t'es arrivé à Paris, tu penses que ça vient de quoi ?
Ça vient de... En fait, c'est comment dire, c'est pas les tenants, les abusants, les ficelles sur comment bien vivre à Paris sont pas du tout les mêmes que dans d'autres villes, en fait. Donc souvent à Paris, on va vachement plus s'intéresser à ce qu'on va manger, j'ai l'impression, à côté, parce que en fait tout est plus compliqué, en fait, avec le monde, le bruit, le fait qu'on soit beaucoup, l'argent, ouais, c'est un peu plus cher aussi, je sais pas si t'as parlé de ça. Donc du coup, il y a un peu un côté, ouais, on va s'intéresser, on pense revenir aux vraies valeurs, mais c'est pas forcément les vraies, et on va se prendre la tête sur des choses vachement plus personnelles. Et puis en plus, ça c'est la mouvance aussi, de toute façon, pas que à Paris, où ça va être soyez bien, faut être bien tout le temps, faut être bien, c'est
la meilleure version de toi-même.
Voilà, la apicratie, quoi, c'est tout le monde soit bien, machin. Ouais, mais machin m'a mal parlé. Non, c'est toi qui l'as mal pris, en fait. C'est faut que tu sois bien, c'est bien recevoir les infos, machin, et bien manger. Et le corps et tout ça. Et puis, t'arrives à Paris, il y a quand même beaucoup d'hommes très beaux aussi à Paris, quand même. Et je pense que ça met un game. Et des fois, t'es genre, ouais, mais un petit regard, j'aimerais bien aussi. Donc après, tu te dis, enfin, voilà, tu pars dans des. En fait, c'est des ressorts, ouais, qui faut juste en avoir conscience. Mais c'est des fois des ressorts qui méritent pas trop qu'on s'attarde dessus. Mais en tout cas, ça m'est un peu tombé dessus, ouais. Il y avait un peu un côté, j'allais pas au sport avant, quoi. Maintenant, j'y vais.
Tu pousses à la selle.
Je pousse à la selle. Ouais, je pousse à la selle. Là, je me mesure les centimètres de pec, tout ça. Non, en fait, je contrebalance parce que quand j'écris, j'ai un côté, bah, justement, peut-être Gryffondor, pouf souffle. Gryffondor, imaginons, c'est les capitaines de chef de baseball, tu sais. Les...
Oui.
Pour moi, c'est un peu ça. Hey. Donc, il y a un peu ce côté-là, mais dès que j'écris des blagues, ou que j'écris que je suis un peu plus nerd, geek, qui est peut-être ma vraie nature, et ben, je vais plus du tout aller à la salle, ça va plus du tout m'intéresser parce que je me nourris dans les vannes ou les histoires et tout ça. Et je trouve ça vraiment superficiel le fait d'aller à la salle en me disant, bah, ok, j'ai rien lu, j'ai rien appris,
j'ai juste sué.
Ouais, je le dis tout le temps, ça, faut pas oublier que pendant que tu fais tes biceps, il y en a qui trouvent des vaccins et qui lisent des livres. Faut jamais l'oublier, ça. Toi, t'es genre, ouais, j'ai des pecs! Puis le fait, tu vois, des fois l'été, tu vois des gars qui sont en vacances, je sais pas, moi j'étais en Grèce cet été, ils vont à la salle le matin, en vacances, hein. L'après-midi, plage où t'es juste là à bronzer, le soir t'es en soirée, tu fais, mais ils font toute l'année, tu fais pour une semaine de vacances comme ça sur la plage, tu dis, c'est quand même le ratio, tu sais, oui. Investissement.
Plaisir.
Il est quand même restreint. Quand même con, tu vois.
Il faudrait aller plus en Grèce.
Alors qu'un petit éclair au chocolat toutes les semaines.
Le ratio est excellent.
Et exactement, voilà. Donc je sais pas, peut-être que tu me verras dans quelques années, bah je serai comme mon père, rond et chauve et très heureux.
Parce que ton père a l'air, enfin, il a l'air heureux dans son jardin.
Ben oui,
quoi.
Exactement, exactement. Il y a pas de lézard. Hein.
Non, il y a pas de lézard. Ce sera le nom de ton prochain spectacle.
Ah non.
Alex Ramirez dans.
Il y a pas de lézard et toutes les autres expressions ringardes.
C'est quoi ta relation avec ton frère? Parce que du coup, t'as parlé que t'avais un grand frère.
J'ai un grand frère, ouais. Ma relation avec mon frère, elle est. Je vais pas m'attarder dessus, mais elle est compliquée.
Ok.
Ouais, elle est compliquée. Il est pas. En fait, pour faire simple, il est pas du tout ok avec le fait que je sois gay. Et du coup, ouais. Et moi, on s'est jamais vraiment entendu, même avant, en fait, on est vraiment très différents. Et en fait, j'ai baissé les armes. En fait, j'en avais marre de me battre parce que moi, je l'aime, en fait, mais c'est pas possible. En fait, je peux pas le contrôler. C'est mon frère, donc en fait, il y a un côté où. Je l'admire, je sais pas, je l'aime, c'est mon grand frère, quoi. Il y a un côté hyper, j'arrive pas à me le dire. Et du coup, comme à chaque fois, ça me fait mal parce que tu te casses les dents face à un mur. Là, je suis en mode, j'ai la flemme de faire des efforts. Donc, on est un peu en froid.
Oh, c'est triste.
Ouais. Mais en même temps, comme on n'a jamais une complicité de malade.
Ouais.
Il y a pas un truc de, ah, c'est con, rappelle-toi. Quand on faisait ça, quand on faisait cette Corée, quand on faisait ce château Lego, machin, jamais, il n'y a jamais eu ça. Donc en fait, je peux pas regretter un âge d'or. En fait, je pense que dès que je suis arrivé, il a eu un problème.
Ah, il était jaloux d'avoir un petit frère.
Peut-être.
Qui a de l'attention et tout.
Peut-être. Ouais. Il s'est passé quelque chose. Et je pense que je devais être aussi insupportable sur certains trucs, mais tu sais, des fois les frères, ça se chamaille. Mais là, c'était même des fois l'indifférence, quoi. C'était vraiment deux.
Ok.
Voilà. Donc.
Et tu sais d'où ça vient le fait qu'il accepte pas que t'es gay? Est-ce que c'est parce que du coup l'homophobie, surtout quand elle vient d'autres hommes, elle est souvent liée à la virilité et à ce qui est perçu comme pas viril.
Ouais.
Enfin, ça arrive qu'il y ait un lien. Du coup, c'est pour ça que je demande.
Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est plus interne. Je pense que c'est dans ses convictions, c'est pas pour lui, c'est pas normal, c'est pas, c'est-à-dire que il veut bien me voir, mais il faut pas que j'en parle, il faut pas que je ramène mon copain. Donc tu vois ce que je veux dire?
Oui, donc il veut pas que voilà. Tu sois vraiment toi-même.
Je suis juste une entité qui reste sans une entité asexuée, voilà. Là pour le coup, je pourrais le voir et lui dire ouais, j'ai fait ça hier, j'ai fait ci, mais on voilà. Moi, j'ai pas envie, moi pour moi ça fait partie de ma vie, donc j'ai pas envie d'éluder des sujets juste parce que sans raconter les détails forcément.
Bah bien sûr, mais bon, ne pas te. Enfin, j'imagine que lui n'a pas. Lui, du coup, s'il est hétéro, il n'a pas à cacher le fait que il a
exactement.
Une copine ou quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas de raison que toi, oui.
Exactement.
Et tes parents, ils ont essayé de faire un peu médiateur là-dedans.
Waouh, c'est. C'est. En fait, on a. Comme on. Moi, je suis loin de. On arrive à faire des repas de famille où il est là et pas moi et moi. On arrive à un peu garde partagée des parents. Et moi, tout ce que je peux, moi, voilà, moi, je, ouais, ils ont peut-être essayé, mais je sais pas s'ils ont essayé. Enfin, c'est pas à moi de leur dire, tu vois, ça serait compliqué de. Et je pense que là, on est un peu, ouais, c'est un peu statu quo, là, c'est un peu la pause. Quand ils me voient, je suis très heureux de les voir, mes parents, vice versa, ils viennent à Paris. Et voilà, là, on est un peu à ce moment-là. J'espère que ça évoluera, mais j'ai pas envie d'être le moteur de ça.
Ouais, je comprends.
Ouais, voilà. Mais voilà. Ouh là là, dis donc.
Ouh là là.
Ça plombe, hein.
Bah non, écoute, ça fait partie de la vie aussi, hein.
Ouais.
J'aimerais que tous les invités aient une vie trop chouette avec zéro,
ah oui, oui.
zéro zone d'ombre.
Mais non, non, mais là, c'est pas vraiment une zone d'ombre, mais ouais, ouais, ça fait partie du jeu, quoi. Et puis même, c'est, ça m'a presque, je me suis vu comment, ce que j'ai pu ressentir juste parce que mon frère était pas tolérant, alors que le reste de ma famille l'est. Du coup, ça j'ai eu un petit échantillon malheureux de ce que peuvent vivre certaines personnes qui sont rejetées de toute leur famille. Et là, je me dis, waouh, ça fait bien mal. Ouais, ça fait bien mal. Donc moi, je l'ai vécu, voilà, un tout petit peu, quoi.
Ouais, bah j'espère qu'il finira par... j'allais dire par grandir, parce que dans ma tête, c'est un peu ça. C'est
ouais,
genre,
ouais.
Mec
oui, c'est
grandit,
ça, pour être intelligent, je sais pas. Mais alors, il y a du chemin. Hein. J'ai pas envie de lui donner les... Il y a un peu un côté, c'est ce que souvent, des fois, t'as envie que les gens acceptent et tout. Et après, tu dis, finalement, s'ils acceptent pas, je perds pas grand-chose, en fait. C'est ouais. Tu vois, je suis un peu en mode... allez, c'est derrière moi, en mode guerrier, un peu. Et pas okay. En mode, s'il te plaît, aimez-moi, tu vois. Parce que sinon, t'es là à ramper et ça peut marcher même sur plein d'autres personnes, hein, des fois. Après, il s'avère que si ça avait pas été mon frère, je serais pas... Quelqu'un qui me dit, je suis pas OK avec ça, je lui dis, bon, bah bye, je le revois plus jamais. Là, du coup, c'est parce que c'est quand même... on a des liens qui font qu'on connaît certaines personnes, on a certaines personnes en commun, comme des parents.
Par exemple.
Par exemple, donc voilà. Et ça devient de plus en plus un étranger pour moi et je trouve pas ça plus mal.
OK.
Ouais.
C'est quoi ton rapport avec les mecs de type pote et tout ? Parce qu'il y a pas mal d'invités qui ont des amitiés qu'on peut qualifier d'amitié virile, mais au sens un peu archaïque du terme, comme tu disais au début, okay. Genre la virilité
ouais.
À l'ancienne. Et...
Ouais, les potes !
Ouais, mais où du coup, il n'y a pas beaucoup de profondeur et de vulnérabilité dans cette amitié, tu vois.
D'accord,
c'est plus
ouais,
genre,
ouais.
On va boire des coups,
ouais,
et finalement, on va mettre des petits culs.
Et on parle de rien. Et
on parle pas de nous.
Ouais, ça va, et on va parler fort. Voilà. Non, ça me fatigue. Ça, okay. Je sais pas faire déjà. Et même des potes qui sont comme ça avec d'autres potes, ils sont pas comme ça avec moi. C'est-à-dire que j'ai okay. Réussi à... J'ai peu d'amis garçons. Mais enfin, c'est-à-dire qu'ils ont un humour... ils ont un humour vestiaire, mais entre eux. Et moi, je vais être là, et on va avoir un autre style d'humour, mais on va être tous les trois ou tous les cinq. Ça va très bien se passer, mais moi, je sais que je participe pas à ça. Et ils le savent, et je sais pas, il y a un côté où on est pour ce qu'on est, quoi. Donc
okay.
C'est un peu comme ça, ouais. Je sais très bien que si je les laisse, il y a un pote et son cousin qui est aussi mon ami, et si je les laisse tous les deux, ils vont jamais parler de la même chose que si moi j'étais qu'avec mon pote, quoi. Ils parleront pas, ils parleront d'autre chose, quoi. C'est parce que c'est des mecs,
c'est des gars.
Ouais. Et je sais même pas parce qu'en même temps ils ont une part de sensibilité qui cache pas du tout, quoi. Mais faut juste, c'est derrière pour ça qu'on s'entend bien aussi, je pense. Ils trouvent leur compte.
À avoir des amis, enfin du coup t'arrives à avoir des amitiés masculines avec de la sensibilité et de la vulnérabilité même de ton côté, tu vois, ça pourrait être un truc qui bloque ou qui vient pas naturellement, quoi.
Bah oui, c'est vrai, c'est mais alors c'est marrant parce que je me sens pas forcément plus sensible ou plus vulnérable quand j'ai des amitiés avec des filles. C'est peut-être moi mon mode de fonctionnement. Moi, ça va être très dans la vanne. C'est-à-dire qu'on rit beaucoup, pour cacher peut-être hein, des trucs, mais on. C'est pas on va mater des culs, mais c'est on va faire des vannes, on va rigoler, on va raconter des conneries. Et des fois, là, j'ai appelé une pote, on en a parlé 2 heures, je sais même pas comment elle va. On a fait que des blagues.
Okay.
On a une mise en scène, on a créé tout un truc. On a créé 12 sketchs qui riment à rien, on a pris des fous rires, mais je sais même pas ce qu'elle a fait la veille, si elle a revu son gars, si je sais pas du tout. Parce qu'il fallait qu'on rie d'abord, je pense que maintenant, j'en suis un peu là. C'est très bizarre, les amitiés sont en train d'évoluer en ce moment. C'est très un besoin de « on s'appelle, il faut qu'on rigole !»
Ok,
donc voilà.
C'est marrant parce qu'en plus c'est littéralement maintenant ton métier
ouais.
De faire rire les gens, mais c'est aussi c'est un métier et un hobby finalement.
C'est un métier et un hobby, et là en fait en ce moment je suis pas programmé à Paris,
okay.
Et donc du coup je crois que j'ai un gros manque. Donc
okay.
Ouais, je crois que c'est, je vis un peu pour ça, pas pour faire des blagues, mais pas pour forcément faire rire, mais en tout cas pour m'amuser, rire et dire des bêtises.
Qu'est-ce qui t'a amené vers la scène et... Enfin, t'as quand même un one-man show assez jeune, finalement, et... Enfin, je vais le refaire.
Comment ça ?
T'es monté sur scène assez jeune,
oui.
Et t'as ton propre one-man, donc c'est trop cool. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire « Ok, je vais monter sur les planches et faire rire les gens » ?
Alors moi, j'ai fait un club théâtre, j'ai suivi ma meilleure amie Harry Potter, là, quand on était dans le coup, tout ça.
On va l'appeler Hermione, du coup.
Hermione ?
Ou Luna.
Elle l'adorerait.
Ok, bah Hermione.
Elle l'adorerait. Bah, d'ailleurs, quand on jouait, j'étais Ron et elle était Hermione.
Ok.
Personne faisait Harry parce qu'il nous énervait.
Ce qui est trop chiant.
Même parce que, voilà, parce qu'il sait pas trop ce qu'il fait.
Oui, il est casse-couille. Je suis bien d'accord avec ça.
T'as vu, je vais pas être méchant envers Harry comme si c'était une vraie personne. Mais parce que...
Non,
moi,
mais
je connais
si
le showbiz, j'ai pas envie de dire du mal. Voilà, tu as quand même une balafre, tu n'as pas eu la vie facile.
Il fait de son mieux.
Il fait de son mieux, voilà. Donc, ouais, non, donc du coup, avec Hermione, j'adore. Avec Hermione, Hermione faisait du théâtre, elle me dit je viens, comme ça on se verra encore plus. J'y suis allé, elle a changé de club théâtre, j'y suis resté quand même, parce qu'elle avait changé. Et du coup, j'ai découvert le théâtre à 9 ans et j'ai adoré. On écrivait nous-mêmes nos sketchs, donc en fait, je pouvais écrire ce que je voulais, raconter ce que je voulais, que ce soit la plus petite bêtise. J'avais entendu, je sais pas, une chanson, je voulais la mettre dans le sketch, on mettait. Enfin voilà, on faisait ce qu'on voulait en fait. Il y avait des spectacles de fin d'année. Donc du coup, spectacle de fin d'année, tu joues ce que t'as fait devant des gens qui te connaissent pas. Et là, tu te rends compte que c'est magique, que tu fais rire les gens. Les gens viennent te féliciter. Moi, je me rappelle vraiment d'un vieux monsieur qui m'avait dit... parce qu'à l'époque, c'était synonyme de succès, mais tu passeras à la télé. Et j'étais genre, ah ouais, mais il me connaît pas, il me dit ça, mais c'est magique. Ok. Ça m'a donné une confiance de ouf, quoi. Et du coup, je me suis dit, si ça peut être un métier, je continue. Et après, je te résume à peu près 10 ans, mais...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et après, quand je suis arrivé sur Lyon, j'ai pris des cours d'impro, des cours de café-théâtre. Et après, j'ai rencontré un type avec qui on a coécrit le premier spectacle. Quoi. Donc celui-ci, là, celui que je joue actuellement, Sensiblement Viril, c'est mon troisième officiel. C'est mon vrai bébé, parce que c'est lui que j'ai écrit totalement. Mais c'est mon troisième. Et ce qui m'a fait monter sur scène, c'est qu'il y avait je pouvais faire ce que je voulais. Et pour le coup, ouais, je me sentais vraiment accepté dans mes délires. C'était un club théâtre très étrange parce que c'était club collège. Donc, t'avais des sixièmes jusqu'au troisième, en fait. Moi, j'étais en sixième, mais j'avais des mecs, pour le coup, hétéros, plutôt masculins. Après, en troisième, t'es ce que t'es. Hein, mais qui kiffaient ma folie, ma fantaisie, ma sensibilité, parce qu'ils en avaient une aussi, en fait. Et c'était génial, en fait, de se dire, c'est pas une question de sexualité ou c'est pas une question de féminité ou masculinité. En fait, c'est une question de caractère. Et je m'entendais pas avec des mecs parce qu'en fait, c'était des gros beaufs. Oui. Et qu'en fait, voilà, on va pouvoir rire ensemble avec, et quand t'es ami avec des types de trois, ça se fait jamais dans un lycée. Ou dans un collège, je veux dire. T'es pas ami avec des gens de 3 ans de plus que toi. C'est un monde.
C'est le goal ultime social.
Il y a 12 vies, t'es pas ami avec des troisièmes. Et là, ce groupe, j'ai envie de dire, tous les âges étaient effacés, à les frontières, wow. On se tenait la main et on chantait We Are The World.
Et alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je vais écrire un spectacle entier sur la virilité, ma virilité, la virilité actuelle et moderne?
En fait, c'est marrant que tu dis la virilité moderne. En fait, moi, je me suis vraiment dit, je vais partir de moi. Et je suis un peu dans une situation inextricable, dans le sens où je suis vraiment dans un entre-deux. Je me reconnais pas, c'est-à-dire que je vais dire que je suis gay. J'avais envie d'en parler, j'avais envie de parler de mon homosexualité, tout en essayant d'être un peu sous-marin et de... J'avais envie d'en parler à la communauté hétéro, même presque plus qu'à la communauté homo, tout en disant... En fait, j'avais eu... Tout en disant, c'est pas ce que vous imaginez, en fait. Voilà. Et en partant de ça, je me reconnaissais pas vraiment dans des clichés ou dans des stéréotypes qu'on peut voir, qui sont de l'homme très très viril ou de l'homme très très féminin ou très... ou du cliché de l'homosexuel très très efféminé. Je me reconnaissais pas dans ces représentations-là, et j'avais l'impression qu'il y avait pas, même en humour, même une personnalité dans sa vraie vie. Alors peut-être que je me trompe, et j'espère, dans lequel je pouvais me dire, ok, ouais, un truc un peu queer, mais presque banal. C'est ça qui m'intéressait, presque pas, presque. Au début, c'était ça mon postulat de départ, c'était ça, c'était expliquer une banalité affligeante qui m'affligeait et qui me, je trouvais ça drôle en fait, parce que bien sûr. Et après l'axe. De se dire qu'en fait on est dans un entre-deux, je trouvais ça marrant en fait, tout simplement, parce que c'est quand même un spectacle drôle. Et l'axe de se dire, on peut être qui on veut dans toutes ces contradictions, parce qu'on est dans une époque où maintenant on peut piocher des codes par-ci par-là, ça me fait penser, tu vois, moi quand je vois des mecs hétéros ou des filles hétéros qui regardent RuPaul Drag Race, je trouve ça génial, moi je regarde pas. Parce que j'aime pas la télé-réalité de base, mais je trouve ça génial que ça soit dans le paysage commun de la télé-réalité. Voilà, en fait, c'est ça. Et c'est des choses comme ça où en fait on peut piocher un peu de partout et pour se créer sa propre identité, sa propre identité de genre, voilà. C'est ça que je trouvais ça intéressant. C'est une réponse très très longue, hein.
Mais c'est très bien. Tu peux continuer.
Et c'est ainsi que non et du coup voilà, en fait il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le postulat de l'homosexualité et après tout en me disant si je reprenais du recul sur tous mes sketchs, il y avait cette espèce de soit jalousie envers les mecs plus musclés, toujours par rapport aux hommes en fait, cette espèce de moi je me situe où par rapport aux hommes, à la masculinité. Et en fait, je me suis tué un peu partout et nulle part. Enfin, c'était ça. Il n'y a pas vraiment de réponse. À la fin, il y a une espèce de réconciliation entre les deux clichés dans le spectacle. Mais finalement, la recherche continue. Et c'est ça qui est intéressant, je pense.
L'évolution permanente.
Ouais, ouais, exactement. C'est-à-dire que je ne sais pas si dans les prochains spectacles, je serai plus ou moins viril. Je ne sais pas. Et c'est tant mieux. On verra.
Rond et chauve, peut-être.
Comment ?
Peut-être rond et chauve, du coup.
Ouais, rond et chauve et avec des talons, peut-être.
Tu peut-être.
Vois. Exactement.
Belle pas. Vision mentale, belle image mentale.
Ouf.
C'est quoi les réactions, notamment des hommes à ton spectacle ? Ils disent quoi, les mecs qui viennent te voir ?
Ils sont assez... Tu penses quoi, homme hétéro, homme gay, homme ?
Un peu des deux, mais en fait, ouais. Je me dis que j'ai pas beaucoup d'exemples en tête. Et peut-être c'est un manque de culture de ma part. J'ai du mal à imaginer beaucoup de cadres où des hommes, une centaine de mecs, va s'asseoir pour écouter un truc qui parle de masculinité pendant une heure, tu vois.
Ah, ouais.
Il y a pas tellement de plateformes. Et donc, il y a quelques podcasts, il y a quelques chaînes YouTube, il y a quelques spectacles comme le tien. Mais au final, tu vois, il n'y en a pas tant. Alors que des spectacles de femmes sur la féminité, je pense qu'il y en a plus. Des humoristes femmes qui ont parlé de c'est quoi être une femme, etc. Mmh. Et des rapports hommes-femmes et tout ça. Mais je me dis, en fait, il y a... Très régulièrement, des mecs qui se déplacent pour t'écouter parler masculinité pendant une heure et étant quelqu'un qui essaye de déplacer des mecs pour qu'ils m'écoutent parler masculinité.
Mais en fait, c'est parce qu'ils s'en rendent pas compte, je pense. Ils viennent pour se marrer. Souvent, quand tu vas voir c'est pas présenté comme un traité sur la masculinité.
Oui.
En fait, ils savent pas ce qu'ils viennent voir. Ça va pas être. Je pense qu'ils viennent voir un one man show. Ils viennent se marrer et finalement, ça va parler de sensibilité, de virilité, de féminité. Et non, j'ai pas mal de mecs qui se disent moi j'ai eu des hommes hétéros gays, c'est même encore plus si on va aller parce qu'on sort un peu des clichés, mais c'est plus intéressant d'avoir presque des hommes hétéros parce que j'ai l'impression qu'il y a un carcan encore plus lourd sur eux, sur ce qu'on attend, ou même dans un couple des fois c'est même la femme qui va leur dire mais attends j'attends toi que tu sois comme ça alors que non, enfin personne n'attend ça, et qui se disent moi j'ai des couples hétéros où t'as le mec qui me dit moi je suis sensiblement viril, et enfin c'est devenu un mot, ça veut presque tout et rien dire, mais c'est l'oxymore, quoi. Qui me disent, moi, je suis sensiblement viril et ça fait plaisir de voir. Et des fois, t'es même en disant, il me dit ça, c'est parce que pour moi, sensiblement viril voulait dire, ok, ça veut dire en gros, je suis gay, tout ça. Et non, rien à voir. Et je suis content même que ça aille plus loin que ça. Donc, non, ils sont assez contents de ça. Et du spectacle, parce que finalement, tu as ri de tout ça et t'as pas eu l'impression d'avoir. Réfléchi ou de dire, j'ai pas dit, tu vois, à la fin c'est pas et vous
et qu'est-ce
vous
que vous faites,
où vous en êtes exactement. Mais moi je veille en tout cas dans mon spectacle que ça soit ça critique personne et que ça soit pas un revendicateur dans le sens violent ou énervé, mais plus toujours cette espèce de subtilité un peu en sous-marin où finalement on va faire réfléchir sans s'en rendre compte.
T'es vraiment un caméléon, quoi. T'es là en mode, on va parler masculinité. Non, vous venez d'un spectacle d'humour.
On va rire, okay. On va parler de la salle de sport. Mais finalement... mais parce que je m'en suis rendu compte après. En fait, c'est quand tu prends du recul sur tes sketchs, en fait, tu dis, d'accord, en fait, je parle souvent de ça parce que c'est ce qui m'intéressait ou ce qui m'interrogeait à cette période-là, ce qui m'interroge toujours. C'est pour ça que je joue encore le spectacle. Mais c'est souvent du recul comme ça. Moi, je me dis pas, tiens, je vais dénoncer ça. Non.
T'écris, et puis au bout d'un moment, tu fais « Attends, il y a un fil conducteur. »
C'est quand même souvent ça. Okay. Okay. Bon, ce sera sur les pommes de terre, sur celui-là, j'imagine.
Est-ce que t'as déjà suivi une thérapie ?
Non.
Ça fait plein d'épisodes à la suite que je parle, que je pose la question, je me dis...
Non. La phrase de bateau, ça va être « La thérapie, c'est la scène. » Ma thérapie, c'est la scène. Mais ouais, en fait, c'est un peu ça. J'ai de plus en plus réglé mes problèmes, ne serait-ce que assumer mon homosexualité. Avant, je pense que le mot homosexualité, je faisais mon homosexualité sur scène. Parce que je crois que je l'ai dit une fois, le mot homosexualité. Et j'avais vraiment... Ouais, en fait, c'était vraiment un boulot à faire. Et le fait de le répéter, de jouer, et de le redire, et de le redire, et de le re-redire, je suis de plus en plus fort à le dire, et de plus en plus... de moins en moins rouge quand je le disais, de moins en moins... Ouais, c'était un peu une erreur de ma part, hein, mais comme si j'avais honte ou comme si j'avais. Il fallait vraiment que ça se travaille, que ça évolue et que je m'assume, même en tant que mec ou tout ça. Et donc du coup, le spectacle aide à mort. Écrivez des spectacles. Non seulement les gens payent pour venir vous voir.
Alors que le psy, c'est toi qui le payes.
Exactement. Et en plus, il y a plein de monde.
Astuce.
Non, mais il y a plein, on parle d'humorisme et qui règlent leurs problèmes sur scène. Moi, je pense à Blanche Gardin aussi qui dit la phrase super qui dit merci à ma psy de me laisser assez de névrose pour pouvoir en parler sur scène et en même temps me les soigner pour que je puisse monter sur scène pour les dire.
C'est un équilibre. Un juste équilibre. La psy de Blanche Gardin, je pense, c'était là. Okay, on va prendre un café, c'est parti. Faut c'est trouver ça. La bonne.
Tout en me disant j'en ai encore pour bien 10 ans.
Chouette.
Donc, ouais, non, ça m'a aidé, ouais.
Parce que de l'autre côté, j'ai reçu il y a pas longtemps Mathieu Longuette, donc oui. Qui avait fait Bonjour Tristesse et qui est sur scène là, avec son premier one man show.
Yes.
Et lui, il disait en gros, je sais que j'ai des névroses et j'ai peur d'aller voir un psy parce que j'ai peur qu'il me les soigne et que je puisse plus faire de l'art. Tu vois, pour lui, c'est pas par l'art qu'il se guérit entre guillemets, mais il a peur que s'il va trop bien, parce qu'en plus lui, il est plutôt énervé hein, dans son personnage, c'est colère et dénoncer la politique et tout. Et du coup, il est un peu en mode, bah si je suis heureux, je sais pas si je peux être artiste parce que
s'il est apaisé,
mon art, c'est pas d'être heureux quoi.
Ça marchera plus. Et bah moi, j'ai un peu réglé mes problèmes donc autour de l'homosexualité, on va dire personnelle ou même de ma manière de m'assumer sur ce spectacle. Donc j'étais un peu dans ce cas de figure quand j'ai commencé à réécrire des nouveaux sketchs. En me disant, est-ce que j'ai encore des choses à dire sur ce thème? Qu'est-ce qui me gratte? Moi, je parle toujours de, voilà, qu'est-ce qui me gratte? Ça veut dire que ça m'énerve pas. C'est ce qui gratte, ce qui agace. Parce que c'est des petits cliquets sur lesquels tu peux appuyer et qui vont faire rire tout en restant très peu engagé. C'est pas mon humour, voilà. Et très peu énervé. Je suis pas quelqu'un de très énervé.
Non, t'es là, t'es souriant et tout. Ouais, t'as les yeux qui brillent. T'as pas l'air énervé.
C'est peut-être une erreur, mais en tout cas, je suis très. Ça sera un sketch d'ailleurs sur le fait que je m'insurge très peu. Tu sais, mais je ne peux pas te laisser dire ça. Ça, je sais pas faire ça.
Il y a pas des trucs genre t'as pas un truc qui t'énerve quoi. Enfin, ça peut être une attitude, tu vois. C'est pas forcément un thème de société.
Oui, mais ça. Mais bien sûr, mais les petits trucs qui m'agacent, mais il y en a plein.
Non, mais qui t'énervent.
Qui m'énervent vraiment.
T'es en colère et t'as pas envie de rire, tu vois. Genre,
non, parce que ça va m'énerver. Au moment où ça va monter, je vais soit passer à autre chose, soit me fermer, soit retourner dans mon monde merveilleux de bisounours, regarder des dessins animés, tout ira bien. Mais justement, c'est un truc à parler, c'est intéressant. J'ai peut-être beaucoup d'œillères, mais tu vois, en ce moment, c'est un peu la mode. Je pense sur les réseaux sociaux, tu sais, des vidéos hyper sensibilisatrices, même très dures des fois, hein, sur que ça soit que ça soit sur les migrants, des contextes sociopolitiques très durs, des personnes handicapées qui vont expliquer que c'était très dur leur parcours, tout ça. Et c'est quelque chose qui vont. Alors, je suis peut-être trop sensible, mais ça va me déprimer au point que je dis la vie c'est nul, quoi. Et donc je suis peut-être. Je fais la réaction inverse qui est un peu de. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que je sais que ça existe, si je veux, mais on va.
T'as pas envie de passer deux heures
on va
à mettre
un suite avec des avocats et des bananes. Et tout ira mieux.
Tellement beau suite. Je suis très jalouse aussi.
Merci. On peut pas dire la marque si on peut.
Si on peut.
C'est Holo. OLOW.
Je mettrai un lien dans la description, mais peut-être j'aurais acheté le dernier avant vous. Tu penses,
tu peux, tu veux. Donc du coup, c'est un peu ça, ce que tu me disais, c'est le côté qui m'énerve beaucoup. Il y a juste un truc, pour le coup, ça va être vraiment sur la féminin, masculin, mais c'est des choses comme des erreurs que même moi je faisais et je m'étais heurté à ça. D'ailleurs, à Mademoiselle, on avait fait un one man show il y a très longtemps et j'avais dit ah moi j'ai plus un humour féminin. Et quelqu'un, Mademoiselle, m'avait dit mais ça veut dire quoi? J'étais genre ah oui c'est vrai parce que et du coup j'avais appris. On apprend tous les jours, c'est ça qui est génial. On apprend. On bouge, on réfléchit, on écrit, on change des choses. Et tu vois, juste hier, je regardais, c'était Guillaume Canet qui dit, il parlait des petits mouchoirs, et il y a le personnage dans le premier film de Benoît Magimel qui tombe amoureux de son pote François Cluzet.
Yes.
Alors qu'il est avec une femme et tout ça. Et il dit, c'était intéressant parce que, bon, sachant que Benoît Magimel, à la base, c'est quand même son personnage est assez masculin. Et j'étais genre, ça veut dire quoi, ça? C'est masculin, donc du coup, c'est hyper bizarre qu'il tombe amoureux d'un mec parce qu'il est quand même assez masculin. Et ça, ça m'a agacé en mode. Donc j'essaye de faire. Voilà, je pense que c'est plutôt ça qui m'agace, mais parce qu'on est toujours agacé quand on maîtrise à peu près le sujet et qu'on a appris peut-être aussi. Je pourrais pas dire. Je pourrais m'insurger sur des trucs politiques, mais soit pour moi, c'est tous des menteurs, soit il y a un côté où je passerai mon temps à être énervé, quoi. Comme certaines personnes.
T'en parleras à Mathieu Longuette, ouais, du coup, j'ai très souvent énervé.
Donc voilà, ça va plutôt être ça sur des choses, sur des trucs qui sont pas. Qui sont pas inclusifs ou sur des choses, des petits qui finalement sont très sous-jacents et ça va passer à une heure de grande écoute et on va se dire Ah ouais, ouais, ou des membres de ma famille qui ont fait ah elle c'est une vraie, ça se voit, ah elle c'est une vraie fille, hein. C'est une vraie fille, c'est une chippie, c'est une vraie fille. Et je suis genre ah tu vois, t'as envie de dire oula, j'ai pas le temps pour un débat, et en même temps si je dis rien c'est terrible parce que je participe à ça.
Et du coup tu débats.
Du coup tu fais tu montres ton mécontentement sans vous donner de leçons, parce que je trouve que c'est le pire en fait, ça change
oui,
encore
si tu
moins
viens
les...
dire t'as tort de dire
ah,
ça.
Non, mais ça la personne sera encore plus fermée.
Du coup, est-ce que tu...
Je valide pas. Maintenant, je commence à dire même certains trucs où je fais ah donc des... sauf que des fois, tu sais que tu pètes l'ambiance. Hein.
Ah oui.
Et
ah
pour bah, moi qui
en tant que jeune femme féministe, je suis habituée à niquer toutes les soirées.
Tu casses l'ambiance.
Ah oui.
Et ouais. Du coup, moi sachant qu'il y a une partie de moi qui est quand même le roi de la fête et qui veut surtout pas mettre mal à l'aise les gens, qui veut surtout pas que tout le monde s'amuse passe un bon moment, bah ces deux parties s'opposent et ça me donne un bon sujet de sketch que c'est en train de me dire là en fait.
Finalement. Ok.
Je pourrais jouer ces deux parties de personnalité.
Qui s'oppose.
Ouais, le côté, je peux pas laisser dire ça, et en même temps, allez, on boit des verres, ça serait con de casser le rythme.
On est bien, on est détendu.
Ouais, mais c'est terrible.
La grande astuce que Fab m'a apprise, encore une fois, je lui rends puisqu'il n'est pas là, c'est de juste demander. Quand quelqu'un dit un truc de genre un cliché, ou une blague qui repose sur un cliché ou une discrimination, c'est de juste lui demander de t'expliquer et de dire en fait, j'ai pas compris pourquoi t'as dit ça. Ou qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, genre, ah ouais, ça veut dire quoi une vraie fille. Mais pas en mode, ah je vais te piéger,
non,
mais en mode
vraiment...
ingénu, tu vois.
Ah génial.
Genre si quelqu'un te dit une blague raciste, je sais pas, les noirs ils courent vite, tu vois, t'es là, je comprends pas pourquoi c'est drôle. Et t'essayes, tu vois, la personne essayer de finir par dire
non,
c'est drôle
parce que
les noirs ils courent plus vite. Et t'es là, ah bon, hein? Les noirs ils courent plus vite. Et l'autre il fait, ah putain. Et ça peut être long avant que la personne se rende compte que peut-être t'avais compris pourquoi c'est censé être drôle, mais que tu voulais juste montrer que peut-être c'est pas drôle. Mais
c'est génial. Hein.
Il faut... Mais je pense qu'avec ta bonne tête en plus, tu sais, genre, on te donnerait le bon Dieu sans confession, tu peux vraiment faire.
Ah, j'adore.
J'ai pas compris pourquoi t'as dit ça.
Et genre, comment ça?
Explique-moi. Et après.
Et en plus de là, c'est la personne qui fait. Et bah voilà.
Oui. Et t'es là. Bon. Et tu vois, t'as rien dit quoi. T'as donné aucune leçon.
Super.
T'as même pas donné d'opinion. T'es juste. En fait, si tu pousses les gens. Et en même temps, c'est même pas méchant parce que des fois, les gens n'y ont juste jamais réfléchi.
Exactement.
Mais comme toi, quand t'as dit que t'avais un humour assez féminin,
et voilà,
t'as
c'est
dit, ça veut dire quoi? T'étais
c'est
là.
Qu'on peut tous apprendre. Exactement.
Astuce.
Ah oui, non, mais c'est vraiment ça. Bah d'ailleurs, une personne, mademoiselle, qui m'a dit ça veut dire, elle m'a pas agressé, elle m'a juste dit ça veut dire quoi quoi. Enfin ça. Et tu dis non, mais plus fin, plus. Bon, bah voilà, elle m'a dit que t'as un humour plus fin, plus subtil, mais pas forcément. L'attribue pas forcément aux hommes ou aux femmes. Et tu fais ah ouais.
Hein, c'est malin.
Ah, c'est malin. Donc oui, partir du principe, c'est vrai que quand il y a des combats comme ça où. C'est ce que j'essaye de faire, et c'est malheureusement ce qui se passe pas sur les réseaux, c'est que souvent les personnes ont raison, et tout le monde est bête, et on apprend la vie aux gens. Parce qu'ils ont tort. Parce que nous, on est les meilleurs, on a la vérité. Oulala.
Oula.
Et en fait, et ça, je trouve que c'est.
Hein.
Ouais, exactement. Et c'est chaud parce que c'est la pire des façons d'apprendre quelque chose. Enfin, ça se transmettra pas. Ça se transmettra pas. Je vais le faire avec toutes les lettres.
Consonne.
Ça s'écrit comment? Transmettra. Trois lettres.
Yes. Voilà. C'est l'heure de la grande question. Est-ce que t'es prêt?
Oui!
Oui! Comment va ta bite?
Oh, comment va ma bite? Alors, physiquement très bien.
Bravo.
Mais moralement, on est sur. Alors, c'est parti!
Oui!
Non, là, pour le coup, j'en parle pas sur scène de ma bite, c'est vrai.
Petit exclu pour vous, les abonnés.
Non, c'est qu'on est sur une croisée des chemins. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a un côté où. T'as des fantasmes. Tu commences à en réaliser certains, et donc tu sais pas si en fait les fantasmes c'est mieux de les réaliser ou pas les réaliser, tu vois.
Parce que c'est pas aussi bien.
Ouais, parce que des fois c'est bien, des fois ça l'est pas. Des fois c'est bien parce que c'est très rare. Si tu rends le fantasme quotidien, bah j'ai l'impression que ça, voilà. Et donc du coup il y a un peu un côté où ma bite des fois est un peu lassée, quoi. Voilà. Comment va ma bite? Elle est bien, mais elle est un peu. Je veux des nouveaux trucs. Et en même temps, non, j'aime bien comme d'hab. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Eh ben, débrouille-toi. Voilà.
Ça dépend.
Elle a une voix très bizarre. Elle est très bonne, comme ça. Ma bite s'insurge, pour le coup.
Elle a des opinions.
Ouais.
Ok.
Non, oui. Et auquel tu t'y attends pas. Mais pourtant, c'est tout ce que t'aimes d'habitude. Ouais, mais non. Voilà. Donc,
On est... Si on sort de la métaphore, ok, pour en parler clairement. C'est rare de parler, genre, clairement juste de la vie avec un pénis. Donc, est-ce qu'on est sur un bail où parfois tu bandes pas quand t'es censé bander? Parce que
non.
C'est un peu comme ça que je lis le côté, genre, t'aimes bien d'habitude, mais pas aujourd'hui.
Non, j'ai toujours bandé parce que physiquement, elle va, c'est ce que je te dis.
Ok.
Mais, En fait, il y a la bande de base, le bandage, la bandation.
La bandaison.
La bandaison. l'érection de base.
C'est ça, voilà. Le mot.
Il y a l'érection de base consensuelle, tranquille, machin. Et il y a l'érection où, tu vois, voir l'éjaculation magique. Et tu fais, ah, waouh, là, waouh. Et comme maintenant, je fais du sexe depuis maintenant, ça va faire bien, peut-être pas 10 ans, ouais, si, bien 10 ans. Il y a un côté où, en fait, on en apprend un peu tous les jours. C'est comme les relations aussi. Enfin, c'est un peu un côté comme ça. Enfin, les relations sexuelles ou pas sexuelles, il y a plein de choses qui changent. Peut-être que j'ai à avoir 30 ans, je sais pas. Mais non, physiquement, prête, mais je pense qu'il me faut plus. Je pense que je suis beaucoup dans... C'est pour ça que je te parlais de fantasmes et tout. Je peux pas être juste dans le physique,
dans le mécanique.
Ouais, dans le mécanique, exactement. Dans le mécanique.
Ok.
Donc elle est un peu à la recherche tout en étant... quand tu recherches, ça casse tout. Enfin, c'est très... Tu vois ?
Yes. Je vois. Ouais, ça doit être compliqué, genre...
Non, non!
Les fantasmes peuvent pas devenir une banalité. Sinon, ouais. C'est pas un fantasme.
Mais oui. Mais sauf que quand t'es. Tu sais, il y a un côté un peu quand t'es jeune, quand t'es ado, tu peux pas avoir toutes les images que tu veux. Il y a un peu un côté un peu interdit. Donc c'est toujours un peu un côté quand t'arrives à ce Graal ou à aller dans certains lieux, tout ça, t'es genre, ouah, machin. Mais après, quand t'es adulte, vacciné, tu vis dans ton appart tranquille, tu peux faire ce que tu veux. Du coup, c'est comme quand t'as envie de manger un burger et que tu vois une fois au McDo avec tes potes, t'es comme un dingue. Mais ouais. Quand t'habites en face d'un McDo et que t'es adulte, au début tu te dis ça y est, t'arrives à la fac, je peux me faire un McDo tous les jours. Ouais, mais au final.
Très vite tu regrettes.
Exactement, tu regrettes.
Et environ 4 jours, t'es pas bien.
T'es pas bien et t'as perdu la magie qui appartenait au McDo.
T'as enlevé au McDo sa magie, c'est ouais. Ce que tu dis.
Voilà, donc.
t'as dit que tu vas avoir 30 ans?
Ouais, je vais avoir 30 ans.
Tu dois avoir à peu près mon âge. Du coup, est-ce que t'as grandi avec du porno facilement accessible? En gros, est-ce que t'avais Internet
Non, j'avais pas Internet. J'ai un milieu assez modeste. Donc, mon meilleur pote avait Internet, mais mon meilleur pote, j'allais chez lui. Et en fait, comme son père travaillait à EDF, l'ordi était allumé toute la nuit. Donc, j'attendais que mon pote s'endorme, j'allais dans le bureau et je regardais des photos. Pas porno. Je suis pas trop team porno.
Ok.
Ouais. Et un porno, c'est-à-dire qu'il faut que j'atteigne un stade de photo ou d'excitation assez élevé ou d'image pour aller à dire allez maintenant porno, mais tout de suite un porno comme ça je vais être choqué.
Oh
ouais, exactement. Quoi, et les meilleurs pornos pour moi c'est les mises en scène. Je crois que j'aime beaucoup c'est les mises en scène, c'est le ah bonjour, hein, peut-être pas forcément le plombier mais c'est très on va raconter des trucs et c'est ah tiens ah bon bah je vais enlever mon t-shirt. Mais si c'est mécanique, non, il n'y a plus personne.
Si c'est juste genre les meilleurs moments de la vidéo mis à la
les
suite.
Les gros plans, les trucs, non, je ne suis pas...
Mais ça,
je
suis peut-être... Est-ce que du coup, tu as trouvé du...
Non, je ne suis pas un romantique.
Moi, je me branle sur l'intro, voilà. Ils ont encore leur pantalon.
Je me branle sur le bonjour.
Mais est-ce que tu as trouvé des pornos où c'est pas trop mal joué? Parce que je me dis, en plus, tu es comédien... Ça doit être compliqué de s'enlever de la tête que... Ah oh, putain, il cabotine. Parce que...
Oui. Ça, le fait que ce soit mal joué, ça appartient au fait que ça m'excite, je pense.
Ok.
Un côté très, tu sais où ils vont en venir.
Oui, genre, on sait.
Alors qu'un film où ils jouent hyper bien et un film que je connais pas et que ça commence à monter, tout ça, je vais peut-être être un peu dans un truc. Non, mais enfin, je suis pas là pour ça. Ou...
Arrêtez,
qu'est-ce que vous faites? Arrêtez-vous, une ellipse, s'il vous plaît.
Je ne veux pas avoir d'érection aujourd'hui. Laissez-moi
ouais,
voilà,
ouais, c'est un peu ça. C'est un peu, non, c'est pas le lieu ni l'endroit, comme on dit.
Ok.
Ce qui veut dire la même chose. Mais... Et ouais, non, le fait que mais plus c'est mal joué, plus. Enfin, c'est pas que ça me fait rire, mais. Des fois, quand c'est vraiment mal joué, ça peut me faire rire. J'ai rencontré un type, et après, il m'a dit, en fait, je suis acteur porno, et du coup, j'ai tapé son pseudo, et je le connaissais dans la vraie vie, et je l'ai vu dans. Et j'étais genre, oh là là, mais qu'est-ce que ça en rajoute? Ça m'a fait rire. Ça m'a vraiment. D'ailleurs, je me suis pas. D'ailleurs, ça m'a pas excité, quoi, c'était. Voilà. Mais. Et ça va vraiment dépendre des mecs aussi. T'as des mecs qui vont jouer très mal, ça va vraiment faire partie du truc, et t'en as des tonnes, et tu vas faire oulala, ou même qui vont essayer de. Tu vas faire oulala, en fait, toi, c'est le. Je sais pas, c'est au feeling, c'est au.
Non, mais c'est ça, t'es un romantique. T'as des coups de cœur.
T'as des yeux, même t'as des gens, des mecs qui vont parler, ça peut m'exciter, ils vont juste me parler dans la rue, et d'autres, pas du tout, et on va être dans des situations plus excitantes, mais ça va pas forcément plus m'exciter. Ouais.
Ok. Si je demande pour le porno, c'est parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens de nos âges et plus jeunes qui ont eu dont la première vision de la sexualité, c'était par le porno, et nous savons tous et toutes, mais ça va mieux en le disant, que le porno, c'est pas la vraie vie.
Ouais,
que ces gens sont des professionnels qui font parfois des trucs
bien
acrobatiques.
Ouais, acrobatique. Voilà. On peut pas leur enlever.
Ah bah ça taffe, écoute. Hein, elle pousse à la salle, oui, clairement. Et du coup, je voulais savoir si toi, ça t'avait peut-être coloré ta vision de ce que pouvait être la sexualité en plus entre deux hommes, qui est encore moins représentée dans les cours de SVT, on va dire.
Hein. Oui, c'est vrai.
Et du coup, est-ce que à ta première fois, tu savais à peu près où tu foutais les pieds, ou c'était très
un scandale ma première fois.
Ah ouais.
Ah oui, un scandale. C'est un peut-être qu'un jour j'en ferai un sketch. Je pense que j'ai dû utiliser trois capotes que je n'ai jamais sans aller au bout, sans aller à l'orgasme. Un nul, enfin non, terrible. Donc t'avais des capotes vides et propres, donc finalement qui jonchaient le sol avec les emballages. Nul. J'ai mis très longtemps à comprendre comment ça fonctionnait. non mais vraiment, bah pour le coup. Mais je me suis pas dit tiens, je vais aller voir sur internet parce que je pense que ça me dégoûtait trop ou que j'ai vraiment petit à petit et que ça me choquait trop aussi. Et je pense que même avec le recul, j'ai été trop jeune dans un lit nu, prêt à faire des trucs. C'était encore trop je sais pas, je devais avoir 20 ans, 21.
Okay.
Mais pour moi j'étais encore trop enfant, c'était encore t'sais, t'en as, tu sens, ils sont motivés par un désir, allez on enlève les fringues, un truc, on sait pas où on en est là, qu'on se retrouve là et puis on y va. Et moi c'était, je pense, bon, faut faire parce qu'on en est là, peut-être, tout ça, mais un peu oula, non, en fait je suis pas prêt, ou ah ça me dégoûte, ou ah j'ai vraiment appris fur et à mesure, quoi.
Et ça t'a pris combien de temps, du coup, avant d'être à un niveau où tu te considères à l'aise?
Je pense que j'ai pas fini, parce que ça va dépendre, ça dépend des gens, ça dépend des situations, ça dépend... tu vois, même avec mon copain, à des moments, c'est pas... enfin, tu sais, moi, je suis beaucoup dans la tête parce que j'ai pensé à des trucs, tout ça, à des moments, ça va être nul, et à des moments, ça va être ouf, quoi.
Parce mais sur que... un acte qui peut être le même, quoi.
Exactement.
C'est juste le mood qui va changer.
Ah ouais, le mood, le lieu, le savoir que je... Ouais, et puis... ouais, enfin la lune. Moi, je suis très cyclique. Le fait que tu te sentes bien, bah pour le coup que tu sois allé à la salle ou pas, que machin, que enfin c'est nul, hein, des trucs à la con comme ça. Et ça peut vraiment. Et à des moments, ça la magie opère, et des moments non, quoi. Puis ouais, des moments où la magie opère pas et tu te fouettes, c'est nul et tout. Et des moments où la magie opère pas, et tu t'en fiches et c'est ce qui fait que c'est bien. Je pense qu'il faut, enfin. Oui, ça parle beaucoup dans ma tête. Ouais.
Ça turbine.
Ça turbine, et c'est que ça ramène là-dedans. Hein. Je parle de la tête.
Oui. Restez avec
donc, nous. Donc, ouais, il n'y a pas eu un côté hyper frontal, et même encore... tu vois, j'ai fait l'émission Crac Crac avec Monsieur Poulpe, et on présentait, c'était le téléachat, on présentait des produits, des sextoys, et quelqu'un est venu les utiliser. Et moi, j'avais dit, je ne regarderai pas ce qui se passe. Pas parce que c'est dégoûtant, parce que c'est, ouais, pour moi, c'est à une heure, en plein après-midi, c'est pas le moment, c'est pas le lieu.
Je suis pas dans le mood, quoi.
Ouais, exactement. En fait, il y a un côté
du coup,
où.
Je vais le dire, j'ai jamais regardé Crac Crac de ma vie. Il y a une meuf qui est venue s'insérer des sextoys dans le vagin.
Ouais,
en
d'habitude,
vidéo.
C'était une meuf, et moi, c'était un homme qui s'est fait gonfler la bite. Qui a mis un gonfleur de bite. Et j'étais à un mètre de cette personne.
C'est quoi un gonfleur de bite?
C'est
je pensais genre être à peu près au point, tu vois, mais là je suis.
Je crois que c'est une pompe à bite.
Ah,
une machine, souvent
comme
c'est les stripteaseurs qui utilisent ça.
D'accord.
Parce qu'ils vont pas bander
Ouais, oui.
Et donc du coup, tu mets ça, t'actionnes, ça aspire l'air, du coup ça congestionne. Et après, si tu veux garder l'érection, normalement tu mets soit un élastique autour à la base du sexe, je pense, enfin pour que ça tienne, sinon après ça.
Oui. Bah sinon ça
et
se dégonfle.
Alors en tout cas, voilà, exactement, et après c'est parti, t'as un sexe turgescent.
Ok, et du coup, tu voulais pas voir ce monsieur.
Ouais, mais pas. Ouais, parce que.
Se faire gonfler la tub comme ça à 14h12.
Exactement,
quoi.
À 14h, okay. Avec Monsieur Poulpe à côté de moi. Et du coup, c'était très drôle parce que du coup, je regarde constamment la caméra en me tenant l'oreille comme si c'était une oreillette en disant alors qu'est-ce que vous voyez?
J'irai voir, ça a l'air très marrant. Ok, je connaissais l'équivalent pour les vulves, mais je m'étais jamais dit on pourrait aussi en faire pour les pénis.
Ah, il y a des gonfleurs de vulves?
Ouais. Mais ah, c'est pas ultra répandu comme truc.
Ouais, parce que genre, je vois pas, ça doit être une sacrée machine.
C'est une genre de coupelle que
machine,
tu
ouais.
mets sur la vulve et ça fait un appel d'air en fait,
ouais,
ça
voilà.
fait du vide. Bah, c'est le même système, je pense.
Exactement.
Et après, bon, il y a moins de. Je veux dire, le sexe, le pénis. Gonfler un pénis, tu vois tout de suite l'idée de, ok, un gros pénis c'est mieux qu'un pénis moins gros et tout dans l'imaginaire collectif.
Bien sûr.
Bon, personne n'est là en mode il vaut mieux avoir une grosse chatte, tu vois, c'est pas un truc qui existe, mais il y a des gens dont c'est oui voilà, il y a des gens dont c'est le kink, il y a des gens que et puis apparemment du coup t'es plus sensible parce qu'il y a un afflux sanguin et tout.
Peut-être.
Mais c'est pas aussi répandu que les rabbits ou les vibros ou les tu vois, ça reste assez niche, je pense.
OK. Et tu connaissais pas le
Mais je connaissais pas le gonfleur rabbit.
Gonfleur rabbit.
J'adore ce podcast de la culture.
T'as les tu sais les pinces tétons, c'est pareil. C'est des trucs en fait, c'est un peu un appel d'air, c'est comme des grosses ventouses, tu mets ça sur les tétons et du coup ça fait gonfler ça fait gonfler tes tétons. Quand t'enlèves, c'est un peu... C'est plus gonflé.
Ok.
Enfin, c'est plus pointu. Ou...
Donc, les stripteaseurs qui ont les tétons qui pointent un gros paquet ne sont peut-être pas 100% honnêtes avec leur clientèle.
Beaucoup d'appels d'air, il y a eu. Okay. Beaucoup d'appels d'air, on peut pas les enlever.
Vous le saurez la prochaine fois que vous irez au Chip and Dale.
Ouais.
Il y a... Voilà, il faut pas croire tout ce que
Bande
vous
voyez. Bande de coquins.
Les coquinous.
Les coquinous, là. Coquinette, coquinous.
Coquinounette, tout le monde.
Coquinounette, oui. Voilà.
C'est non-genré pour moi, coquinous, tu sais.
C'est vrai,
c'est mixte. Bon, on a bien causé.
Ouais.
Je pense que je vais te poser ma dernière question, sauf si il y a un sujet dont tu voulais parler et qu'on n'a pas abordé peut-être.
Alors écoute, non. Non, non, on a parlé flamme-cuche, on a parlé appel d'air.
Striptease, ouais.
Striptease, non, c'était... Non, c'était juste le... Ouais, moi, il y a le mot cisgenre que j'apprends, je suis dans l'apprentissage de ça.
Ok.
Tu vois, vraiment, pour pouvoir l'utiliser... pour pouvoir le comprendre, oui, je sais pas. Mais vraiment, j'ai envie de le faire entrer dans mon vocabulaire, en fait, parce que pour moi, ça a vraiment ouvert un champ des possibles et je me disais, ah, c'est bien. Donc, redis-moi un peu ce que c'est.
Alors, cisgenre, ça veut dire que tu corresponds au genre qu'on t'a attribué à la naissance.
Voilà.
En gros, c'est l'inverse de transgenre. Donc, les personnes transgenres, à la naissance, on a vu leur appareil génital et on a dit, bah, t'es un garçon ou t'es une fille.
Oui.
Et en grandissant, ces personnes se sont rendues compte que non, généralement, elles sont l'inverse. Parfois, elles peuvent être non-binaires, donc ne pas s'assigner à un genre binaire.
Ouais.
Mais la plupart du temps, ça va être quelqu'un qui est né avec un pénis et qui dit en fait, je suis une femme, ou l'inverse. C'est pour ça qu'on disait au début que tous les hommes n'ont pas de pénis et que la question
sûr.
Qu'est-ce que c'est être un homme réponse, c'est avoir un pénis. C'est un petit peu... Ça exclut du coup
pas mal de personnes.
Les personnes, les hommes trans. Et du coup, cisgenre, c'est juste ça. En fait... Le terme, il existe aussi pour éviter de dire il y a les transgenres et les personnes normales, tu vois. Parce que c'est pas anormal, c'est pas dans la norme, dans le sens c'est pas la majorité.
Majorité.
Mais c'est aussi pour avoir un mot qui définit, voilà, tu corresponds, la majorité des gens correspondent au genre qu'on leur a attribué à la naissance. Ce qui veut pas dire qu'elles vont pas faire un chemin de réflexion sur ce genre comme tu le fais, comme je le fais. Et
bien c'est là où le bas blesse, c'est là où je m'interroge, c'est que du coup... Comment ça correspondre? C'est-à-dire quoi correspondre à son genre?
Bah, c'est la grande question. Après,
ça veut dire tout ce que me donne la société en me disant...
Non, ça veut pas dire que, ok, t'as décidé que tous les caractères virils et masculins te correspondent.
Et voilà.
Ça veut dire que je pense que c'est juste... Mais en fait, c'est un peu comme être homosexuel ou hétérosexuel. Tu le sais, tu vois. Tu le sens.
Ouais.
C'est une souffrance. C'est comme si demain, tout le monde t'appelait madame et parlait toi au féminin.
Ouais.
Ça te ferait chelou, alors qu'en vrai, ça change rien à ta vie.
Okay.
Parce que, en fait, ton genre, c'est masculin. Et c'est pas un truc qui est scientifiquement 100% expliqué, tu vois. Il y a des études où apparemment, il y a une partie des personnes trans qui ont un développement cérébral différent qui pourrait expliquer, genre, très concrètement, très physiquement, pourquoi il y a... Donc, ça s'appelle une dysphorie de genre.
Ouais.
Quand tu as un rapport à ton genre qui ne correspond pas à celui qu'on t'a assigné. Et ça crée beaucoup de souffrance. Et en gros, la transition... est un remède, finalement, à cette dysphorie de genre, puisque c'est le moyen le plus simple d'être épanoui et de ne plus souffrir, c'est de ressembler au genre que tu as dans ta tête. Et une dysphorie de genre, ça va être typiquement, si t'es un homme trans, donc tu te sens homme, mais tu as une vulve, par exemple, ça va être très compliqué pour toi d'avoir tes règles. Ça va pas être un truc avec lequel t'es bien, parce que c'est un marqueur féminin.
D'accord.
Ou d'avoir les seins qui poussent à la puberté, ça va être... quelque chose qui te perturbe très profondément,
plus que bonjour madame ou bonjour
voilà, monsieur. Puisque tout le monde qui peut être perturbé à la puberté, ça peut être un... Bah, y a beaucoup de suicides chez les personnes trans et tout, parce que c'est très très douloureux d'avoir un corps où dans ta tête, t'es là, c'est pas le corps que je suis censée avoir. Mais c'est très dur à comprendre.
Non, c'est
quand
génial.
Quand tu le ressens pas.
Oui, bien sûr, oui.
Mais moi, là, je te dis ce que j'ai lu.
Oui, tout à fait, mais tu parles physiquement, et du coup, ça me... Je dis pas que la réponse me va mieux, mais ça donne un éclairage plus que, tu vois... Parce que moi, par exemple, tu vois, quand j'étais enfant, j'écrivais des histoires dont j'étais le héros, mais c'était une fille qui parlait. C'était toujours une narratrice, en fait. Et c'est ce que j'aimais dans les chars de poule, parce que les chars de poule, c'était toujours jeu, mais ça pouvait être un homme, une femme, enfin, un enfant, une enfante. Enfin, une infante espagnole, on sait pas pourquoi. n'importe quoi. Non, mais voilà. Et du coup, c'est pour ça que tu me demandais si on pouvait parler. Enfin, à un moment, quand tu m'as dit on va faire un podcast sur la masculinité, il y avait juste cette notion que j'avais envie d'aborder de ce côté. Jusqu'à quel point tu dis je suis pas en accord ? Est-ce que c'est juste les modèles qui sont autour de moi en disant ah, ça m'attire ou j'ai envie d'en être ou,
Bah, ça peut être. Après, ça peut être. C'est aussi un chemin, n'est-ce pas ? Ouais. T'as un mec comme Bilal Hassani qui est venu dans le podcast. Il a une présentation sociale qui est souvent très féminine, même pas juste efféminée, mais enfin, je veux dire, si tu sais pas, tu peux le prendre pour une femme, mais il se genre pas au féminin, et pour lui, c'est clair qu'il est un homme homosexuel, tu vois. Et en fait, ça peut être comme ça toute sa vie, ça peut osciller vers peut-être une transition plus tard ou pas, mais tu peux... et de l'autre côté, tu peux avoir des personnes trans qui sont beaucoup moins... à l'aise avec le fait de mettre des marqueurs féminins, tu vois, c'est un chemin. Et tu peux, pendant 20 ans, dire, en fait, je suis un mec efféminé, et 20 ans après, dire, en fait, je suis une femme. Et bah, tu parlais tout à l'heure de RuPaul's Drag Race, qui est une émission que j'aime bien. Donc, c'est des hommes qui font du drag, donc qui se déguisent en femmes, mais de façon ultra bien faite. Enfin, moi, chaque épisode, je suis là, what the fuck, comment ils sont plus bonnes que moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, c'est un boulot de dingue. Ouais, et il y en a plusieurs qui... finissent par transitionner vers le genre féminin. Et en fait, le fait de faire du drag, c'était aussi un chemin vers accepter cette identité féminine. Donc c'est ça aussi, c'est que c'est pas... le genre n'est pas ancré dans le marbre.
Oui. Et... oui, c'est pas t'es comme ça ou t'es comme ci. Oui. Mais c'était... c'est ça que j'avais envie de comprendre. Voilà.
Voilà.
Bah, merci.
J'espère ne pas avoir dire de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires si j'ai fait des approximations.
Mais bienveillant, si vous corrigez.
Bienveillant, toujours. Mais la communauté du Boys Club est très, très chouette. Ah, très, très bienveillante.
Bah, bonjour. Merci de m'avoir écouté.
C'était cool. Je pense que les gens seront très contents. Ouais. Je t'enverrai le best des commentaires.
Ah ouais, ça serait avec plaisir. Yes. Toujours sur est-ce qu'on m'aime, on va, faut arrêter
mais
avec
oui,
ça.
Mais oui, on t'aime. Dites à Alex que vous l'aimez dans
non,
les
non,
commentaires.
Non, pire. Le mendiant de l'amour.
Ça va, c'est moi qui fais la charité pour toi. Du coup, je vais passer le chapeau.
Terrible. Non.
Mettez des
pouces. Soyez détachés. Moi, je l'ai apprécié. Pas tout, mais il mérite de vivre.
Ce n'était pas le pire moment de ma vie d'écouter cet homme. Voilà. Et du coup, ma dernière question que je pose à chaque invité, c'est est-ce que tu as une idée de mec réel ou fictif qui représente pour toi une vision positive de la masculinité ?
Ouais, j'ai réfléchi un peu à cette question. Mm-hmm. Et moi, je pense à deux personnes. À deux mecs réels ou fictifs ? Non, je pense à Ezra Miller.
Yes.
Parce que bon, il est magnifique, mais ça serait non, ça c'est pas le premier argument. Non, mais en fait, il y a un côté très queer, et j'ai découvert des photos de lui avec des looks magnifiques, ni masculin ni féminin, sur des tapis rouges, donc sur des représentations du cinéma. On va présenter des avant-premières, c'est un peu les mecs en costard, les filles en robe à paillettes.
Les mecs qui sont tout le temps en pingouin là.
Exactement. Et là, des choses très étranges et tout. Et en fait, j'ai compris que c'était pas finalement son vrai compte, c'était un fan club. Donc il y avait beaucoup de photos de lui.
T'as envoyé des DM, t'étais là.
Non. Ah, je sais même pas. Et vraiment, du coup, ça m'a fasciné. Et je suis pas très fan dans l'âme, où j'ai pas su vraiment en disant. Et là, en me disant. Et ça reste un acteur qui fait des films, tu vois, qui dans des films de super-héros, tu vois, il a fait Flash. Ouais. Et donc, du coup, toute cette espèce de carrière m'intéresse et en me disant. En fait, c'est toujours ça pour moi, c'est toujours un peu l'avenir. Si un jeune garçon qui se sent queer, différent, pas forcément gay, mais tombe sur Ezra Miller, va dire moi j'aime bien le mec qui fait Flash. Donc auprès des beaufs, ça passe hyper bien. Lui, c'est très bien pour qu'il le quitte. Il y a un côté, et c'est ce que je voulais aussi créer avec mon spectacle et cette espèce de. En fait, on n'est pas en dehors de la société, on est dans la société et on est dans le game. Et en fait, ça fait partie du truc. Et c'est pour ça que je parlais de RuPaul's Drag Race, qui est dans Netflix, implanté de ouf, parce que c'est pas. J'ai tapé une vidéo pirate pour trouver. Et voilà, et je trouve que Ezra Miller, il a ce côté acteur bankable, hyper queer.
Bah, c'est marrant, parce que ça rejoint exactement notre discussion de juste avant sur le genre, parce qu'Ezra Miller a dit il n'y a pas très longtemps qu'il s'identifie comme non-binaire. Qu'il s'identifie pas comme homme ni comme femme. Il est non-binaire, ce qui veut dire plusieurs... ce qui peut avoir une définition plus spécifique selon les gens. Mais du coup, ça explique aussi, je pense, ses outfits qui sont... Voilà, il n'est pas habillé en femme. Il n'est pas en costume trois pièces comme tous les autres acteurs. Ouais. Il va claquer une jupe avec un nœud papillon, des trucs comme ça, où t'es là.
Exactement.
Peut-être c'est ça le futur.
C'est ça le futur. C'est le sensiblement viril plus. Mm. Finalement, moi, je parlais d'oxymore. Est-ce que finalement, ça ne voulait pas dire non-binaire, mon spectacle, sensiblement viril ?
Peut-être.
Finalement, c'est bien. Et Baptiste Le Caplain, parce qu'il y a une espèce d'humour et de fragilité qui est hyper masculine, qui est hyper. Si on comment dire, si on doit aller dans les stéréotypes, l'humour fait par des hommes va être très posé, ancré, bam 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 bam, des énergies très très directrices. Et l'humour fait par des femmes, mais ça veut pas dire que c'est
ça c'est va pas être parce que c'est des femmes.
Voilà, exactement. Tu vois, Noël Robin, un humour, on va dire, dans les clichés très masculin, dans le sens où c'est, oui. Voilà, je te parle de. Donc c'est pas forcément les bons mots, masculin, féminin, vous m'excuserez. Et fait par des femmes, ça va être plus enlevé, plus pas forcément hystérique, mais ouais, une voix plus aiguë, plus un côté un énervement un peu volubile. Et je trouve que ça, Baptiste Le Caplin a son énergie de jeu qui est comme ça. Et du coup, il y a un côté hyper frais de sa part, et il va te parler de sa femme, de ses filles, tout ça. Et moi, il y a un moment, sa mère, il mettait des robes devant sa mère qui fumait des clopes, et il limite sa mère, et puis sa mère, elle fait la bleue, ça t'allait mieux, tu vois. Finalement, juste un commentaire, ouais, mais la rouge, voilà. Et finalement, tout ce truc-là, et le fait qu'il soit hétérosexuel, je trouve que donne encore un autre éclairage. Et participent au changement de la société, du style... Moi, je pense toujours à ces gens un peu ignorants, qui savent pas trop, qui sont dans leur carcan, qui viennent voir un spectacle. Bon, ben, on l'a vu, elle fait jamais Comedy Club, on va voir le beau hétéro un peu ignorant, et qui se dit, ah ouais, un mec, ça peut être ça aussi, et voilà.
Oui, et ça reste un mec hétéro qui a une femme et des filles, quoi.
Exactement, en fait, c'est ça. C'est, chacun peut être qui on veut, mais je trouve qu'il y a un peu un côté où il fait encore plus la démarche que moi j'ai envie de faire, parce que sa sexualité est cisgenre. Enfin, non,
hétéro.
Non, hétéro, pardon.
Yes.
Pardon, c'est ça, hétéro.
Mais aussi, c'est genre, mais c'est
oui, voilà, ouais, c'est pas sa sexualité, voilà. Voilà, parce qu'il y a un côté très, ouais, c'est ça.
Ok, bon, bah cool, je pense que personne n'a cité ces deux. Ezra Miller, j'ai un doute, je me demande si quelqu'un l'a pas mentionné, mais je confonds peut-être avec un article qu'on a eu sur Mademoiselle sur ses looks et comment il rafraîchit, ouais. Du coup, le boulot d'acteur et la représentation, donc ça, c'était cool. Donc peut-être je confonds, mais je suis sûre que Baptiste Le Caplin, personne l'a
dit. On t'a dit qui d'autre?
Oh, il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu des personnages de fiction, des mecs de Dragon Ball Z, par exemple, des trucs comme ça.
Ah ouais?
Il y a eu pas mal de... Il y a eu David Bowie.
Ouais,
Je crois que c'était Bilal Hassani qui a dit David Bowie, d'ailleurs. Yves Saint Laurent. Mm-hmm. Là, récemment, il y a eu Zidane, deux fois. Il y a Romain Fraissinet et Mathieu Longuette qui ont dit Zidane, parce que je pense qu'il y a l'amour du foot. Et en fait, c'était un modèle... Vraiment un modèle masculin en grandissant pour eux, tu vois, en fait, t'es fan de foot.
Ouais.
Zidane, c'est le joueur de foot français de cette époque. Et il a une présence très, voilà, il est efficace, il est taiseux, il est respectueux et tout ça, jusqu'au coup de boule. Et du coup, après, on parle du coup de boule, on est là, mais du coup, le coup de boule, ouais, mais c'est aussi un homme, tu vois. Il a aussi ses émotions et tout.
Ah ouais.
Zidane, c'est un des rares qui est revenu deux fois.
C'est marrant.
T'as Barack Obama, Justin Trudeau, The Rock, Dwayne Johnson, The Rock, qui est quand même... Un gars qui pourrait être un énorme beauf viriliste et qui, en fait, est une crème et est très dans une forme de positif et de parler de ses émotions et tout. Donc, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Il pousse à la salle de ouf. Mais en même temps, il va faire des trucs où il va pas avoir peur de pleurer ou de faire des messages d'amour à sa femme, tu vois. Donc, il est cool.
Très bien, ouais.
Et on a eu Fabrice Florent, une fois ou deux aussi. Car... Il a fait réfléchir pas mal de mecs.
Fabrice Florent, moi j'ai eu... Pour moi, dans le bon sens du terme, Fabrice Florent est une énigme. Dans le bon sens du terme. Pour moi, Fabrice Florent, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. On y retourne, il y a une énigme. Je sais pas s'il faut le mettre dans l'eau pour qu'il chante. Je sais pas, mais... Non, mais ça me fascine dans le bon sens. C'est un côté où j'ai envie de... Je le trouve très secret et en même temps, j'ai envie de savoir son parcours et en même temps... Ouais, je le trouve très discret sur des trucs. Enfin, c'est un peu...
T'écouteras son Boys Club, peut-être, que ça lèvera le voile sur le
peut-être.
Mystère.
Peut-être, ouais, exactement. Ouais.
Mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que j'aime bien parler de lui. Tu sais, d'habitude, il est là, du coup, on va disserter sur lui. Je pense que le parcours de Fab ne suffit pas à expliquer pourquoi Fab est Fab. Tu vois, c'est genre, qu'est-ce qui fait que genre, tu devrais pas être qui tu es, en fait, avec ton parcours et ton background et l'âge que t'as et la société dans laquelle t'as grandi et tout. Qu'est-ce qui fait qu'il y a même pas 30 ans, tu t'es dit, ok, je vais donner la parole aux jeunes femmes et de plus en plus les laisser parler aussi parce qu'il a fini par confier le magazine à des jeunes femmes et tout. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, en fait, les jeunes femmes, c'est trop intéressant et pas d'une façon chelou, genre, comme ça, je vais les pécho, tu vois, il était déjà marié.
C'est intéressant, les jeunes femmes.
Ah, j'aime bien. C'est juste genre, waouh, elles ont tellement de trucs dans leur vie qui est vachement plus intéressant que ce que moi j'ai dans la mienne de vie de mec et tout. Qu'est-ce qui...
C'est vrai. Je sais pas. Bah parce qu'il a eu raison.
Ah, il a eu raison, mais je ne sais pas où était le déclic, mais il est fort. Merci
Alex.
Là,
qu'est-ce qu'on est corporate.
Ah oui. J'espère qu'il écoutera cet épisode. Je lui dirai, non, tu devrais écouter Alex, c'était vachement bien.
C'était le quart d'heure pommade.
Oui. Merci Alex, c'était trop bien. Du coup, tu joues, alors j'ai vu sur ton site jusqu'en 2020, on peut voir Sensiblement Viril un peu partout.
Voilà. Un peu partout, on reprend à Paris à partir du 24 septembre.
Ok, donc dans le reste de la France, je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir Alex Ramirez. Franchement, c'est dur de trouver une raison, enfin une excuse pour pas aller te voir tellement t'es dans un milliard de villes différentes, donc il est forcément près de chez vous, quelque part, à un moment.
Prenez peut-être derrière vous, retournez-vous. Mais non, c'est qu'un podcast. Mais qu'il est fort!
Bravo, excellent mouvement de micro pour t'éloigner. Et vous pouvez bien sûr retrouver ces vidéos low cost sur Internet. Yes. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Merci Alex.
Merci Mimi.
C'était trop bien.
Merci mademoiselle.
Bisous. À dans 15 jours pour un nouvel épisode. Bye.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.